Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Hi everyone, I'm Willy Sagnol. I feel privileged to join you as of Sunday as the new national head coach.
Ils disent combien ils donnent, qu'ils disent pas combien ils donnent, c'est pas grave. Le plus important, c'est de donner.
Je peux pas ne pas dire que ça, c'est pas fini en queue de boudin.
Et pourquoi on reprendrait pas le football? Pourquoi on reprendrait pas le football?
Toi, tu les vois faire machine arrière, toi.
Mais non, c'est sarcastique en disant, on est les dindons de la foi.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct jusqu'à minuit. Vous l'avez entendu dans ce magnifique générique. Willy Sagnol sera avec nous dans quelques secondes. Invité exceptionnel, sélectionneur, 8e de finaliste de l'Euro avec la Géorgie. Florent Gautreau est là, salut Flo. Salut à tous. Et Walid Acharchour, auréolé d'une victoire dans le quiz à réécouter en podcast de Génération.
J'ai été la chercher celle-là.
Ouais. Avec notamment un dernier quiz magnifique, reconnaître les rires de personnalités d'RMC.
C'est ma nouvelle spécialité.
Et c'est là où tu as été très fort.
J'étais très très fort. Salut Thibaut, salut Flo, salut à tous.
Salut Walid. Il est 22h02, on est ensemble jusqu'à minuit avec vous tous sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Merci à ceux qui sont déjà là, Bam Bam, Xavren, merci à tous. N'hésitez pas à venir nous voir et commenter votre soirée foot. Willy Sagnol dans un instant avec nous, 22h20, l'Euro continue sur RMC. Bilan de la phase de groupe des grosses nations. On sera avec les drôles de dames jusqu'à 23h. 3h, Fred Hermel, Paulo Breitner pour les équipes plutôt au rendez-vous, l'Espagne et l'Allemagne. Et puis un peu plus tard, Julien Laurence et Johan Crochet nous rejoindront pour parler de l'Angleterre et l'Italie qui ont un petit peu déçu. 23h, les Bleus au programme avec l'avis de Walid. Le management de Didier Deschamps t'inquiète?
Oui. Tu vas nous expliquer pourquoi. Je voulais en parler hier soir, on n'avait pas eu le temps. Et oui, effectivement, il m'inquiète.
Peut-être qu'on aura le temps ce soir. 23h, normalement, on va avoir le temps. Avis de Flo également, concernant le France-Belgique qui arrive lundi à 18h. S'il est à 100%, c'est Giroud qui doit être titulaire contre la Belgique. Et puis le mercato chaud pour conclure avec des grosses infos aujourd'hui à Lyon et Marseille, notamment. Sur tous ces sujets, on vous attend au 32-16. C'est Max qui est au standard ce soir. Max, la célébrité, le célèbre Max du standard de Max, que vous retrouvez en podcast tous les jours. C'est lui qui vous répond si vous nous appelez au 32-16. N'hésitez pas à venir débattre dans l'after. Et quel plaisir pour l'after d'accueillir l'autre sélectionneur français qualifié pour les huitièmes de finale de cet Euro. Le boss de la sensation de la phase de groupe, la Géorgie, est en direct sur RMC. Bonsoir Willy Sagnol.
Salut messieurs.
Bonsoir, félicitations, Willy. On est très content de te recevoir ce soir. Comment ça va là ce soir, 24 heures après, Willy? Est-ce que on est encore sur un nuage ou t'as déjà basculé sur le huitième de finale contre l'Espagne?
Non, tu sais, avec la Géorgie, on bascule très doucement vers les prochaines échéances. On a passé la journée tous ensemble. Il y avait même les familles qui étaient là. Donc ça a permis, voilà, de sortir un peu du cadre classique et de profiter un petit peu du moment.
Tout le monde parle de la Géorgie comme surprise de ce premier tour. Est-ce que toi aussi, quand même, Willy, t'es surpris? Ou pas du tout, en fait, en démarrant cet euro, les huitièmes de finale? Tu les avais dans un coin de la tête.
Les sentiments, je dirais, sont un peu mitigés parce que je trouve qu'on, depuis un an et demi, deux ans, on a vraiment fait des bonnes choses, mais on a toujours eu un petit peu de mal sur la durée, notamment contre des grosses équipes. Et c'est ce qui m'inquiétait un peu sur ce championnat d'Europe, parce que c'est trois matchs de poule en huit jours, avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude d'enchaîner les matchs comme ça aussi de manière aussi rapprochée. Et c'était ce qui m'inquiétait un peu, mais la réponse des joueurs sur le terrain, elle était fantastique.
Walid et Flo Gautreau sont là.
Oui, un mot quand même sur cette histoire qui est un peu la tienne avec la Géorgie, parce que bien sûr, on va parler des joueurs après, et de Gvara notamment, mais ça n'a pas été simple au départ, et tu as souvent dit que ce que tu avais aimé dans ce projet, c'était qu'on ait su te faire confiance sur le moyen terme, on va dire, pas forcément le long terme, parce qu'on sait que même pour un sélectionneur, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est ça, selon toi, le secret un peu de la réussite, puisque tu as pu construire quelque chose avec cette sélection?
Ouais, alors oui et non, oui, c'est toujours confortable quand tu sais que tes patrons vont pas te juger au bout de trois matchs, c'est quand même plus confortable. Après, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, la Géorgie sortait aussi d'un épisode un peu douloureux. Ils avaient eu des play-offs aussi pour essayer de se qualifier pour l'Euro 2021. Et ils s'étaient fait éliminer par la Macédoine du Nord. Et quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait quand même une forme de traumatisme et les joueurs ont mis un petit moment avant de ressortir un peu la tête de l'eau.
Willy, non, moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu as vécu un peu ces trois matchs, comment tu les analyses. Le premier match contre la Turquie, où pour moi, ça a été l'un des meilleurs matchs de ce début d'Euro, où je me suis complètement régalé avec cette volonté d'aller chercher le 2-2 jusqu'au bout avec le gardien qui monte. Et on s'est dit, avec ce 3-1, peut-être que vous allez être mal payé avec la différence de but à la fin du tournoi. Ce match contre la République tchèque, où Mamardashvili fait un match énorme aussi, et où vous avez souffert. Et ce match contre le Portugal, qui se goupille très très bien très tôt dans la rencontre. Raconte-nous un petit peu par quelles émotions tu es passé, quelle a été ta logique, ton analyse entre les matchs. Ça m'intéresse.
En fait, le premier match, même si il s'est terminé par une défaite, c'est un match qui nous a donné beaucoup de confiance parce que je pense qu'il aurait été logique de au moins de pas le perdre. Je dis pas de le gagner, mais je pense que le match nul aurait été logique sur ce premier match. Et autant notre match nul contre la République tchèque, je pense qu'il est quand même assez assez chanceux, parce que la République tchèque a eu énormément la Tchéquie a eu énormément de situations. Comme tu l'as dit, notre gardien a été monstrueux sur le deuxième et sur le troisième match. Mais par contre, le troisième match contre le Portugal, on a rien volé, on doit rien à personne, et là on a vraiment mis tous les ingrédients dans ce dernier match. Donc c'était une forme un peu de voilà, le premier match nous a donné de la confiance, peut-être trop, parce que le deuxième on s'est fait monter dessus par la Tchéquie. Mais voilà, on a repris pied pour délivrer une très belle performance contre le Portugal.
Est-ce que finalement, pardon, pour rebondir sur ces analyses de match, est-ce que finalement, quand on a, et c'est pas pour dévaloriser la prestation de la Géorgie, puisque on sait quand même que les meilleurs troisièmes passés, il y a un peu moins d'éliminés qu'auparavant. Est-ce que finalement, quand on a une sélection qui obéit à son sélectionneur, je vais faire simple, avec un grand gardien, un grand meneur, pour faire simple aussi, et un très bon attaquant, est-ce que quelque part, on peut pas voyager déjà assez loin dans le foot actuel? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines sélections, même parmi les plus grandes, on cherche le neuf. Où on cherche le faiseur de jeu, je pense même au bleu. Enfin, tu
peux rajouter un bon 6, parce que quand on rajoute
un bon 6, je veux dire par là, est-ce que finalement, quand on a de très bons joueurs à ces postes clés et une bonne orga avec tout le monde qui tire dans le même sens, on peut, la preuve, on peut faire réaliser quelque chose de grand?
Ouais, je dirais, à force d'aller au plus simple, comme vous dites, bientôt on jouera sans gardien ou sans entraîneur. Non, c'est pas aussi simple. Il y a des équipes qui ont des très bons gardiens et des très bons avant-centres et qui se qualifient pas ou qui ne performent pas. Une équipe, c'est 11 joueurs. Mais on va dire que ou la chance ou le travail, je sais pas, mais aujourd'hui avec la Géorgie, on a quand même un axe, que ça soit gardien, mon capitaine, défenseur central, deux très très bons milieux de terrain et deux joueurs offensifs très bons aussi. C'est sûr, quand t'as une colonne vertébrale un peu plus solide, tu peux voyager un peu plus. Après, ça fait pas tout non plus.
Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, est en direct sur RMC dans l'After avec Walid Acherchour et Florent Gautreau. Merci Willy de prendre quelques secondes. Et au final, justement, c'est quoi, nous on t'a un peu perdu de vue ces dernières années en tant qu'entraîneur, c'est quoi la méthode Sagnol? Quel type d'entraîneur tu es, si tu devais te décrire, je sais pas, du spectre qui va du tacticien Guardiola au meneur d'hommes Deschamps, comment tu te places toi, Willy?
Oh, moi je me place nulle part. Généralement on dit que les équipes ressemblent aux envies de leur entraîneur. Donc si tu veux avoir une image un petit peu de ce que j'ai envie, de faire ou de ce que j'essaye de faire, regarde jouer mon équipe et ça t'en dira un peu plus. Après, c'est qu'une question de contexte aussi. Tu peux faire des choses avec la Géorgie que tu pourrais pas faire avec la France ou avec l'Angleterre ou avec des nations où il y a beaucoup de pression. J'ai l'avantage aussi d'être dans un pays où déjà de s'être qualifié, c'était un exploit monumental. La France, quand elle se qualifie, c'est de la banalité, c'est une normalité affligeante. Moi, j'ai de la chance d'être dans un pays comme ça qui accepte aussi de ne pas être le meilleur, qui accepte de ne pas gagner tous les matchs et où tu peux jouer, je dirais, sans une forme de pression négative.
Et d'ailleurs, tu reçois beaucoup de messages. Nous, on a le YouTube, j'ai encore beaucoup de messages ce soir. Beaucoup d'éloges en France depuis la qualif hier. Est-ce que tu n'as pas l'impression... Il y a des gens qui se posent la question, qui disent que fait Willy Sagnol aussi loin de chez nous, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir été un peu oublié ici par des clubs ou des sélections?
Non, pas du tout. Parce que des clubs, il y a toujours eu des contacts avec certains clubs à travers le temps, mais aussi moi de vouloir voir autre chose, de vouloir faire autre chose, ça a été aussi une de mes priorités à un moment donné. Et quand on dit voilà, les voyages ça forme la jeunesse, mais ça forme les hommes aussi. Et j'avais envie de voyager un peu, voir autre chose. Et à ce niveau-là, avec la Géorgie, j'ai été bien servi.
Walid.
Dans votre carrière d'entraîneur aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le summum. Vous êtes en train de, c'est en termes de consécration, c'est énorme en termes d'émotion.
Ah c'est énorme. C'est sans commune mesure même avec ce que j'ai pu vivre comme joueur. Parce que quand t'es, ouais, mais quand t'es joueur, t'es toujours dans l'action, t'es jeune, t'as l'impression d'avoir toute la vie devant toi. Quand t'es entraîneur, ça veut dire que t'es un peu plus vieux déjà. T'as un petit peu plus d'expérience et peut-être tu prends plus le temps d'apprécier les bonnes choses, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement.
Willy, comment on gère un joueur comme Guevara, aussi fort que Guevara, qui sur les deux premiers matchs, moi, de ce que je vois au Napoli, bon, peut-être pas cette saison, mais surtout l'année dernière, je l'ai trouvé un petit peu en dedans, hein, même s'il met toujours le cœur et beaucoup d'énergie. Mais quand on voit son dernier match contre le Portugal hier soir, où il a été énorme, comment on gère Guevara? Qu'est-ce qu'on lui demande sur le terrain? C'est une gestion différente des autres joueurs?
Bon, toutes les équipes, on va dire, les leaders un peu techniques ou les meilleurs joueurs des équipes, il y a toujours une gestion un peu différente des autres. On aime beaucoup dire tout le monde a la même enseigne, mais c'est pas vrai. Il y a toujours quand même des hiérarchies. Alors oui, c'est vrai que ces deux premiers matchs étaient pas bons, mais c'était le premier à le reconnaître aussi. La veille du match du Portugal, on a eu une longue discussion tous les deux. Où moi j'ai essayé de lui dire, essaye de retrouver un peu ce qui faisait ton insouciance d'il y a un an, il y a deux ans auparavant. Ne pense pas trop, joue, voilà. Et comme j'ai essayé de lui schématiser en lui disant, écoute, défends comme un homme, mais attaque comme un enfant. Voilà, parce que un homme, parce que j'ai besoin de structure défensive. Et puis comme un enfant pour attaquer, parce qu'un enfant, ça prend des risques tout le temps. Et c'est ce qu'on veut voir de ce joueur-là. C'est un joueur qui a beaucoup de déchets, mais il a beaucoup de déchets parce qu'il crée énormément de situations.
Il est dur à gérer ou pas particulièrement?
Ah non. Bah, c'est un mec comme ça, t'aimerais en avoir 26 hein, dans un effectif.
En parlant de 26, il y en a un deuxième à ses côtés, que nous on a beaucoup connu en Ligue 1, qui a essayé de sauver Metz jusqu'au bout. Et moi, je suis un grand fan de Miko Tadze, mais même en étant un grand fan de Miko Tadze, je suis surpris, agréablement surpris de sa phase de poule. C'est quoi ton analyse? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? J'ai l'impression que le plafond, il peut le péter. On parle beaucoup de son futur transfert, peut-être en Ligue 1 ou ailleurs. C'est un bonheur d'avoir ce type de joueur dans son équipe.
Oui, très clairement, oui. Parce que déjà humainement c'est un super gamin. Et après voilà, pendant 6 mois il a galéré à Amsterdam. Et de galérer dans une carrière c'est très bien parce que quand tu galères tu te mets à bosser un peu plus, un peu plus fort chaque jour. Et quand tu sors un petit peu de cette galère là, tu en ressors comme un meilleur joueur. Et c'est ce qui se passe avec Miko Tadze. Je pense qu'il a bien analysé ce qui allait pas dans sa carrière ou dans sa vie quand il était à Amsterdam. Et le retour qu'il a fait à Metz, enfin les 5 derniers mois, Metz a joué les playoffs à la fin de l'année, mais sans Miko Tadze, il y aura un peu de playoffs.
Willy Sagnol en direct sur RMC dans l'After, 22h15, encore quelques minutes. Merci beaucoup Willy d'être là, Flo.
J'ai deux questions, mais une sur l'actu quand même, sur le prochain match, parce qu'on a envie de savoir, est-ce que tout le monde ou tous ceux qui connaissent pas totalement le foot, parce qu'on sait que le foot peut réserver de belles surprises. Tout le monde voit l'Espagne. Et j'imagine que c'est un bonheur de pouvoir préparer ce match sans, alors déjà, tu parlais de l'absence de pression, mais là, sans aucune pression, la pression, elle va être énorme pour l'Espagne contre vous. T'as déjà pensé à des choses différentes, peut-être, de ce qu'on a vu là depuis le début de l'Euro? T'as déjà des choses par rapport aussi à ce que t'as vu de l'Espagne?
Ils les ont joués deux fois en qualification.
Absolument.
Ouais, alors c'est, je dirais que moi déjà ma problématique avec la Géorgie, c'est j'ai beaucoup de joueurs qui sont pas habitués à jouer tous les trois jours ou tous les quatre jours. J'en ai très peu qui ont des rythmes comme ça. Il y a Kvaratskhelia qui est comme ça. Il y a pu y avoir un peu Mikotadze en Ligue 1 comme ça, mais la plupart de mes joueurs ne sont pas habitués à ça. Donc je dirais que déjà la première problématique, c'est comment les joueurs vont récupérer. On parlait tout à l'heure d'un milieu de terrain, la Kocorashvili, qui joue en Ligue 2 espagnole, qui joue pas tous les matchs. Là, il vient de faire trois fois presque 90 minutes ou pas loin. Il est énorme ce qu'il a fait, mais l'essence d'un moteur, je sais pas s'il en reste beaucoup. Donc voilà, il va falloir déjà que les joueurs récupèrent bien, et je dirais pour essayer peut-être soit de remettre la même chose en place que face au Portugal, parce que en théorie l'Espagne, le Portugal, il y a une philosophie de jeu qui est un petit peu presque similaire. Je dis pas qu'elle est la même, mais qui est un petit peu sur les mêmes tendances. Est-ce qu'on va être capable de refaire le même match avec les mêmes joueurs? Pour l'instant, je sais pas.
Est-ce que tu as des réserves? Est-ce que sur le banc, tu as déjà, par exemple, des possibilités, ou c'est trop juste, c'est par rapport aux joueurs qu'on a vus?
Tu sais, on a 40 000 licenciés en Géorgie. Voilà, c'est en France, c'est 2 millions pour les garçons, je crois. À peu près.
Oui, c'est ça.
Nous, c'est 40 000, donc t'imagines bien que les réserves, elles sont pas énormes non plus derrière.
C'est intéressant, Willy, que tu parles de l'aspect physique, parce que moi, je vous ai trouvé sur les trois matchs monstrueux dans cet aspect. J'ai pas les stats de kilomètres parcourus en bloc équipe, mais moi, en tout cas, visuellement, je vous ai trouvé dans cet aspect-là très très fort.
Bah, le nombre de kilomètres, c'est. Enfin, moi, j'ai jamais accordé de l'importance parce que je trouve que ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la capacité des joueurs à répéter des efforts à haute intensité. C'est plus ça qui est important. Parce que le nombre de kilomètres, voilà, c'est juste pour faire beau sur un écran de télé à la fin d'un match. Mais là-dessus, ils ont été énormes. Je pense qu'on a fait une très bonne préparation en Autriche. Les joueurs ont vraiment bien bossé. J'ai aussi de la chance, voilà, d'avoir des mecs dans le staff de grande qualité, que ça soit mon adjoint Adel Chedli, que ça soit mon préparateur physique Fabien Bossuet. C'est des mecs aussi de grande qualité, et je leur dois beaucoup aussi, parce que la préparation a été bien faite, ce qui nous a permis, voilà, de pouvoir enchaîner ces trois matchs à une intensité très intéressante.
J'avais une autre question par rapport à ce que tu as fait après ton passage en France au Bayern avec Carlo Ancelotti. Et tu dis que ça a beaucoup compté, que c'est peut-être même ce qui a, enfin, tu vas m'infirmer ou me confirmer, ce qui a le plus compté, on va dire, dans tes rencontres et dans ta carrière d'entraîneur.
Ce qui est sûr, c'est que dans mon après-carrière, je dirais, dans mon secteur d'activité aujourd'hui, la rencontre avec Carlo, ça a été la chance de ma vie. Parce que il m'a permis de voir le métier d'une façon complètement différente, d'une façon beaucoup moins usante, et je lui dois énormément. Alors je l'ai jamais trop dit directement, mais je lui dois beaucoup 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 de choses.
Et il disait notamment un truc, puisqu'il te parlait du caractère usant de ce métier. Concentre-toi à fond sur ce sur quoi tu peux avoir de l'influence et non pas sur tout le reste.
C'est ça. C'est ça. Et je pense que aujourd'hui, le métier d'entraîneur est de plus en plus compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de paramètres à prendre en compte. Il y a des staffs beaucoup plus larges. Il y a des interférences beaucoup plus nombreuses, les réseaux sociaux, c'est énorme. Et c'est vrai que si on veut essayer de tout gérer, de tout comprendre, de tout analyser, de tout contrôler, à la sortie, on se perd, on s'use psychologiquement, et après, on prend plus les bonnes décisions.
Encore deux petites questions, Willy Sagnol, en direct sur RMC. Je sais pas, tu l'as probablement vu passer. L'ex-premier ministre géorgien Bizdina Ivanishvili, l'homme le plus riche de Géorgie, a annoncé aujourd'hui qu'il allait donner plus de 10 millions d'euros à l'équipe nationale.
Ah oui, Sagnol, ah non.
Alors, à l'équipe, c'était ma question, Willy. Est-ce que tu vas toucher toi aussi?
Alors, j'ai aucune idée. C'est aussi les petites choses dans les pays comme la Géorgie où tout est pas écrit. Voilà, tout est pas écrit et que. Mais ça montre surtout que le travail qui a été fait, il est reconnu et qu'il a envie d'être valorisé parce que voilà, la Géorgie, c'est pas un grand pays et quand il y a des sports, là, le foot actuellement, mais ils ont aussi d'autres, notamment dans le MMA ou dans le judo, dans les sports de combat, un peu ils ont des grands athlètes et c'est un peu les étendards aussi de ce pays-là, donc. Voilà, c'est une forme de. Alors, c'est sûr que ça peut nous choquer, nous, en France, parce qu'avec l'argent, on a toujours un petit souci. Mais dans certains pays, ça choque pas du tout.
Et d'ailleurs, somme doublée si vous battez l'Espagne.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
et on dirait les présidents de l'époque en France, ouais. où, quand tu gagnes un match, allez, il doublait la prime.
Nicolas qui faisait ça à l'époque.
Voilà, doublait la prime, ou alors, tu sais, dans le coup de tête, le film de Jean-Jacques Hano, il déchire les billets de 500 francs à l'époque. Il en donne une moitié aux joueurs et il dit l'autre moitié, c'est à la fin si vous avez gagné.
Il y avait encore d'autres choses dans 3-0 que j'ai préféré. Il y a énormément de messages, Willy, sur le chat YouTube, sur le direct studio qui te félicite. Donc je peux pas tous les relayer, mais vraiment il y a énormément de messages ce soir. Donc je tenais à te le signaler. Et puis la dernière question à 22h21 dans l'after, c'est Fred Hermel qui va te la poser. Salut Fredo.
Hola chicos. Salut Willy.
Salut.
Salut Fredo.
Ça va? Bon, je te dis que ce dimanche, je serai pas à 100% pour l'Espagne. Voilà. Il y a quelques pourcentages pour toi, bien entendu. Voilà. Sinon, j'aurais été à 100% pour l'Espagne.
J'aurais jamais cru entendre ça de ma vie une fois.
Voilà. Alors, tu sais, est-ce que, je vais te dire un petit peu, j'ai une question à te poser, mais avant, je voudrais te dire le très bel article, le très bel édito qu'a signé mon ami Alfredo Relaño, qui est le mythique, chroniqueur espagnol, du journal AS. Qui qualifie ton équipe d'admirable rival pour les huitièmes. Voilà le titre de... Et Alfredo Relaño, je peux te dire qu'il a tout inventé dans le foot en Espagne, dans les médias footballistiques en Espagne. Et c'est un très bel hommage qui le rend à ton équipe. Et il parle beaucoup, et c'est la question que je voulais te poser, parce que le dernier résultat contre l'Espagne, c'est 1-7 à la maison, hein, tu le sais, avec notamment un triplé de Morata, avec des buts de Lamine Yamal et un but de Nico Williams aussi, si je me souviens bien. Donc en gros, les types qui sont en forme dans cet Euro. Mais tout comme Alfredo Relaño, beaucoup de gens se disent en Espagne, attention, parce qu'il y a un joueur qu'on connaît bien en Espagne qui s'appelle Mamardashvili, qui joue à Valence, et que la perspective de marquer un but déjà à ce grand gardien, déjà donne des maux de tête aux Espagnols. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Je dirais que si on m'avait dit il y a 6 mois de ça que la Géorgie donnerait des maux de tête à l'Espagne, la personne qui m'aurait dit ça, je pense que je l'aurais traité de fou, peut-être. Non, nous, on n'est pas du tout dans ce dire on peut leur donner des maux de tête, on peut les battre, on n'est pas du tout là-dedans, parce que quand t'es la Géorgie, tu peux pas réfléchir comme ça. Nous, la seule chose qu'on veut faire, c'est essayer de reproduire les mêmes performances qu'on a pu faire sur les 3 premiers matchs avec la même intensité. Et si après on a un petit peu de réussite, si on a nos joueurs offensifs qui nous font la différence, si on a notre gardien qui de nouveau fait Jésus comme face à la Tchéquie notamment, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, enfin il faut être honnête, il faut reconnaître que pour nous l'Espagne c'est un énorme mur qui se dresse devant nous mais que nous, on a déjà réussi notre Euro. Nous, on a déjà tout gagné. Donc nous, on va aller dans ce match-là sans aucune arrière-pensée et en voulant prendre beaucoup de plaisir, surtout ensemble.
Cette phrase d'Alfredo Relaño dans sa chronique, la Géorgie est un joli rival, mais pas simple.
Ouais.
Voilà. Donc il y a beaucoup de respect. Les gens, c'est pas parce qu'ils ont battu 7-1 qu'en Espagne, on se dit c'est fait.
Voilà. Et la question bonus, c'est si t'avais affronté l'équipe de France, est-ce que tu aurais dit à Didier Deschamps, ta gueule l'ancien?
Tu fais référence à quoi?
Je fais référence à un euro que j'ai suivi de près. Et c'était bien l'euro, hein, attends,
2008,
c'est une Coupe du Monde.
Coupe du Monde 2006. C'est quand les anciens, justement, bah oui, parce que De Sailly avait arrêté, c'était De Sailly, hein, il me semble.
Ouais, mais aujourd'hui.
Juste pour rappeler l'anecdote, c'est donc Coupe du Monde 2006, les anciens qui sont arrêtés comme Donde, Marcel Desailly, critique comme sur les plateaux télé l'équipe de France, et en conf de presse, Willy, qui est un très bon client pour nous les journalistes, avait dit j'ai envie de lui dire ta gueule l'ancien. C'est à peu près ça.
Ouais, mais comme aujourd'hui je suis ancien, tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais pas les anciens. Aujourd'hui, je suis un ancien, j'aime pas les jeunes. Donc, je peux plus le dire.
Merci Willy. Merci Willy. Beaucoup d'avoir été là ce soir, Willy Sagnol.
Merci.
Salut Willy. Ça a été un grand plaisir. Dimanche, 21h, Espagne-Géorgie, le 8e de finale de l'Euro. Bonne chance Willy et à très vite dans l'after. Bye bye. Ah, ça fait plaisir d'avoir la Géorgie, sensation de ce premier tour.
Très bon, et ouais. Le caractère, l'anecdote ta gueule l'ancien, elle est intéressante à plus d'un titre par rapport à la personnalité du bonhomme. Parce que cette phrase-là, je peux te dire, dite à un champion du monde 98, c'était un truc énormissime.
Ouais, grosse personnalité, mais gros joueur en plus, Espagnol. On parlait de la Coupe du Monde 2006.
Ouais.
Grosse
Coupe du Monde. Et cette personnalité qu'il avait sur le terrain, il l'avait dans le vestiaire. Et je peux te dire que quand il est face à ses joueurs dans un vestiaire, ça doit être, tu respectes Willy Sagnol.
On a entendu Fred Hermel, il reste là Fredo, parce que dans un instant on fait tous ensemble le bilan du premier tour des grosses nations, et justement l'Espagne, on va en parler. Paulo Breitner sera là également avant Allemagne-Danemark en 8e de finale. Les deux nations au rendez-vous. On sera un peu plus tard avec Julien Laurence et Johan Crochet pour les nations qui ont un petit peu plus déçu, beaucoup plus, l'Angleterre et l'Italie. Vous êtes sur RMC, c'est l'After avec Florent Gautreau, avec Walid Acherchour et vous tous au 32-16, bien évidemment. On vous attend si vous voulez venir débattre avec nous tous.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrand.
Il est 22h28, nous sommes jeudi le 27 juin et ce soir il n'y a pas match les gars. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Florent Gautreau et Walid Acherchour sont là, mais ensemble jusqu'à minuit ce soir. On va préparer tous ensemble les huitièmes de finale. On va pouvoir prendre le temps ce soir sans match de faire un bilan de ce premier tour, de cette phase de poule, et de se projeter sur les huitièmes de finale. On est toujours en direct sur YouTube. J'ai vu vos messages pour Willy Sagnol qui était avec nous il y a quelques instants. Interview passionnante à retrouver en podcast d'ici quelques minutes. Le 32-16 si vous voulez venir débattre avec nous. Et dans ce bilan de ce premier tour des grosses nations, commençons par les équipes au rendez-vous. J'ai nommé l'Espagne et l'Allemagne. Fred Hermel est toujours là et Paulo Breitner nous rejoint. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Ça va, vous êtes en forme les gars aussi, à mi-euro à peu près, pas cramé encore, ça va?
Ah, ça fait du bien deux jours sans foot.
Ah carrément?
Ah oui, ça fait
un peu de bien. Bah, de toute façon, ça fait du bien.
L'euro commence maintenant.
Exactement, l'euro commence même en quart de finale.
L'euro, bah bien sûr, l'euro à 24 en fait.
Les poules, c'est pour Walid ça, c'est pour les morts de faim du foot, c'est-à-dire les Ligues des Champions avec 140 clubs.
Ah, vous avez deux matchs, plus de matchs. Vous n'avez pas la phase de poule?
Bah, disons que la phase
de poule. Comment on fait pour avoir des huitièmes de finale ou des quarts de finale sans phase de poule?
La phase de poule. Non, si. Bah,
quand j'étais jeune, il n'y avait pas de huitième.
C'est pas la phase de poule.
Il n'y avait même pas de quart.
C'est le nombre d'équipes au départ. Parce que là, tu as éliminé le classement FIFA. Hein. Tu as éliminé le 39e, le 66e, le 27e, le 24e, le 34e, le 32e, etc. Il y a la Croatie qui est tombée. Ouais. Comme en Ligue des Champions, tu as l'équipe qui se fait baiser une fois, pardon. Qui se fait avoir.
Oula, tu as payé cher.
Ouais. Ça, régulièrement, parce qu'il y en a une, maintenant. Mais finalement, voilà, tu n'as pas beaucoup de surprises.
Passons 1 euro à 8, sinon, Flo.
Pourquoi pas?
Bah ouais, voilà.
Pourquoi pas?
En fait, vous êtes les pros de la Super League du foot. Du foot international,
Je ne pensais pas qu'on partirait sur ce débat-là.
Mais pourquoi pas?
Très bon débat.
Parce qu'à 16,
ils n'ont plus les matchs à la fin.
Pas tous, mais beaucoup étaient mauvais.
Mais la raison pour laquelle ils étaient mauvais, c'est ça qui est terrible. C'est pas forcément les équipes, la qualité des équipes, c'est la formule.
Pourquoi l'Euro 2008 était dingue? L'Euro 2008, il était dingue.
Non, mais tout ce qui était plus resserré, mais
tous les matchs, on était comme le France-Roumanie 0-0 2008.
Tous les euros plus courts étaient meilleurs.
Vous savez pourquoi il y a cette phase de poule? C'est simple.
C'est Platini.
Non, c'est pour qu'on puisse faire le bilan dans l'after.
Ah oui,
voilà. Bien sûr. Il y a des avantages, des inconvénients. Moi, je peux vous bien
sûr. Oui, ce que Platini l'a décidé. Idée de l'after. Ben, voilà, ok.
Bien sûr que je préfère l'Euro 2000 en termes de compétitivité, de niveau. C'est la meilleure compétition que j'ai vue moi de ma vie.
Mais bien sûr.
Mais maintenant.
Et le meilleur Zidane de tous les
maintenant,
temps.
Maintenant, voilà. C'est pas une plaie de regarder la phase de poule. Il y a des belles histoires. Et puis voilà, on va rentrer dans la compète.
J'ai envie de vous dire, si vous n'aimez pas.
C'est un bel entracte.
Si vous n'aimez pas le football, n'en dégoûtez pas les autres.
Oui, voilà.
Non. C'est justement parce qu'on aime le football que nous sommes exigeants avec les gens qui lui font du mal.
Voilà, ne pas dire tout ce vaut. Oui. C'est-à-dire que il y a effectivement bien sûr qu'il y a des choses
ceux
à regarder.
Ceux qui aiment l'Euro à 2020 à 24 sont les mêmes qui se plaignent des qualifications. Bah, rehausser le niveau de qualification en faisant rentrer moins d'équipes dans l'Euro et vous verrez que ce sera beaucoup plus intéressant.
Ah bah bien sûr.
Aujourd'hui, les matchs amicaux, c'est les matchs de qualification. Les matchs de qualification, c'est un match de l'Euro, c'est par exemple c'est Allemagne Écosse et les huitièmes de finale. En fait, c'est la J3 d'un Euro à 16. C'est tout.
Alors cette phase de poule, revenons-y quand même avec vos clubs, vos nations, messieurs, notamment cette Espagne dont on a parlé il y a quelques instants avec la Géorgie, Fredo. L'Espagne, au rendez-vous. Et en fait.
En plus que ça.
C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est plus qu'au rendez-vous. C'est pratiquement une surprise en Espagne de voir l'équipe avoir autant déroulé dans cette phase de poule.
Bah, c'est-à-dire que personne en Espagne ne s'attendait à ce que la nation espagnole soit qualifiée au bout de deux matchs, qu'elle passe une branlée à la Croatie, qu'elle marque, qu'elle gagne les trois matchs, qu'elle mette 5 buts et qu'elle n'en prenne aucun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire meilleur bilan que celui-là. Et surtout, alors il y a plein d'enseignements. Ces trois matchs permettent de voir plein de choses. La première, c'est l'explosion au niveau international, réellement, des deux petites flèches, Lamine Yamal et Nico Williams, qui permettent, et c'est la deuxième observation, le dernier bilan intéressant, conclusion qu'on peut tirer après ces trois matchs, c'est que ces joueurs-là, et la volonté aussi du sélectionneur, est de faire évoluer le jeu. Comme on avait parlé déjà dans l'after, Capello l'a expliqué, c'est fini le tiki-taka, hein, la possession stérile, etc., qui a été magnifique à un moment, mais qui ne marchait plus. On l'avait vu lors du dernier mondial. Aujourd'hui, l'Espagne, elle est toujours capable, parce qu'elle a de très bons milieux de terrain, de garder le ballon quand il faut un peu calmer l'adversaire. Ce fut le cas lors des premières minutes contre l'Albanie. L'Albanie, pendant 7-8 minutes, il courait comme des malades. Et il y a eu quelques petites approches de la cage de David Raya. Donc là, à ce moment-là, les milieux ont pris le ballon, ils ont calmé tout le monde. Et puis après, ils ont pris le contrôle du match. Et il y a eu ces envolées des types de devant. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que même sans Lamine Yamal et même sans Nico Williams lors du troisième match où il n'y avait plus rien à jouer, l'Espagne a joué aussi avec des joueurs très très désaxés, en vraiment passant sur les côtés. On a vu un Ferran Torres d'un côté et un Oyarzabal de l'autre être très très près de la ligne de chaud. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable volonté de la part du sélectionneur de jouer avec cette alternative de football direct et de football qui ouvre énormément sur les ailes, même quand il n'y a pas les deux meilleurs joueurs pour jouer ça. Donc ça veut dire que cette philosophie, elle a évolué sans renier l'autre. Et puis il y a de très bonnes découvertes. Personne ne s'attendait à voir Cucurella, le latéral gauche, à ce niveau-là. Et avec, quand on voit le niveau de Grimaldo aussi contre l'Albanie, ben on se dit qu'il y a deux latéraux gauches qui sont exceptionnels. Unai Simon a été parfait lors du match où il y a eu le plus d'occasions contre l'Espagnol, c'est-à-dire contre la Croatie. Et puis, personne ne s'attendait à ce qu'on ait un Fabian Ruiz à ce niveau.
Ouais,
voilà.
Ça, c'est sûr.
Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. Mais pour l'instant, il n'y a que des bonnes surprises ou en tout cas de confirmation de ce qu'on voulait en Espagne.
Flo ou Walid, est-ce que vous partagez cet optimisme Espagne? Vous voyez quelques limites quand même dans cette équipe-là?
J'en ai déjà parlé à plusieurs émissions. Pour moi, avec le troisième match de l'Allemagne contre la Suisse, même si c'était une adversité différente et un contexte différent parce que l'Espagne était qualifiée au bout de deux matchs et pas l'Allemagne, pourtant les deux ont fait 6 points, c'est quand même l'Espagne qui m'a fait la plus grande impression dans cette première phase de tournoi. Fred a bien résumé les choses. En plus, on a un Laporte qui, sur le troisième match, a été l'un des meilleurs et qui a montré qu'il pouvait apporter une plus-value.
Après, c'est peut-être ça le doute, c'est que cette défense espagnole, les gars, on l'a pas encore trop vue inquiétée.
Moi, je pense qu'avec...
Parce que l'Italie est une déception, on en parlera dans quelques minutes. La Croatie,
contre la Croatie, ils ont concédé l'Espagne sur la première mi-temps.
Oui, mais c'est là où le gardien était très bon.
Justement, je pense que effectivement, c'est peut-être là, parce que malheureusement, je pense pas qu'il y ait de questions, même s'il y aura de l'opposition, sur le match contre la Géorgie par rapport au fait que l'Espagne va passer. Donc c'est pour ça que je disais, pour certains, ça commence même en quart de finale. Mais ça peut aussi s'arrêter en quart de finale. Et pour cette raison-là, c'est ça qui est terrible. Et c'est souvent ça avec l'Espagne. Oui. C'est-à-dire que l'Espagne, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle a eu aussi les adversaires qu'il fallait. Elle a été magnifique offensivement. Mais là où tu rentres dans le dur et où certains ont déjà été challengés sur cet aspect-là, l'aspect défensif, et eux un peu moins, ou alors tu ne l'as pas assez vu, parce que tu as raison sur la Croatie. Il y a des moments où tu as vu qu'il y avait un souci. Ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter contre l'Allemagne en quart de finale.
Flo, pas challengé. On verra où ira l'Italie, par exemple, dans cet Euro. Et puis t'étais quand même dans la poule, la supposée la plus compliquée avec
des adversaires décevants.
Je pense que c'est l'Espagne
qui les a rendus aussi à un moment donné. Quand tu mènes 2-0 à la 30e minute,
l'Italie a besoin de l'Espagne pour être décevante.
Je pense que contre beaucoup d'équipes, parce que autant l'Espagne pour moi n'a pas fait un énorme match contre la Croatie, ils ont su être opportunistes en première mi-temps, autant le deuxième match pour moi ils font un énorme match de football. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes face à cette Espagne là, face à ce Nico Williams qui était en feu total sur la rencontre, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient été en difficulté, hein.
Et justement après deux matchs de poule, après les victoires de l'Espagne et celle de l'Allemagne contre l'Écosse puis contre la Hongrie, je me souviens qu'on les mettait un peu au même niveau sur le côté. Mais après, il y a eu le troisième match. Et Polo, justement, c'est quoi les conséquences de ce match nul de l'Allemagne contre la Suisse? Est-ce que ça a calmé tout un peuple? Est-ce que ça a remis en cause beaucoup de choses alors que l'Allemagne avait démarré très fort?
Oui, ça a remis quelque chose en perspective, encore une fois, parce que le match contre l'Écosse n'est pas à analyser. Le match contre l'Écosse, c'est un match de qualification, c'est pas un match de niveau d'un championnat d'Europe. Et donc, on est resté sur ce 5-1, ça fout, encore une fois, c'est le roi à 24 qui fausse toutes les analyses. Et vous regardez le match contre la Hongrie qui déjà est nettement moins intéressant à regarder, même s'il y a victoire 2-0. Et ensuite, tu commences à avoir une équipe très sérieuse comme la Suisse qui est habituée aux huitièmes de finale depuis un bout de temps avec beaucoup de certitudes. Et tu as en fait une presse allemande qui se dit le match contre la Suisse va nous montrer maintenant ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait l'Euro commence maintenant. L'Écosse, vous pouvez oublier, c'est pour Mickey, ça c'est pas intéressant. Le match contre la Hongrie, c'est un match de poule qu'il fallait gagner parce que c'était important. Et il manque en fait ce facteur X qui est le Danemark en huitième, qui a souvent embêté les grandes nations, qui a, même s'ils ont fait trois matchs nuls, ils ont souvent dominé leur rencontre, hein, le match contre la Serbie en est un bel exemple. Et donc l'Allemagne doit augmenter son niveau. Mais encore une fois, j'arrête pas de dire que l'Allemagne est dans l'urgence. On ne peut pas se tromper, il y aura pas de défense centrale qu'on a vu, qui d'ailleurs était pas bonne, Rüdiger, Jonathan Tah, lors des trois premiers matchs, il y en a un qui est blessé, l'autre est suspendu. Donc on sait que c'est Schlotterbeck plus X. Et le grand débat en Allemagne en ce moment, c'est qui mettons en numéro 9? Oui. Est-ce qu'on garde Kai Havertz ou est-ce que c'est Füllkrug? Parce que Füllkrug, c'est 19 sélections, c'est 13 buts. C'est un but tous les 58 matchs.
Dans ce que tu dis, Polo, dans l'urgence dont tu parles, ce serait quand même incroyable de ne pas avoir Füllkrug contre le Danemark.
Bah, si tu parles de statistiquement pur, ok, il doit être titulaire à la place de Kai Havertz qui a pas brillé. Alors, d'ailleurs, on peut aimer Kai Havertz contre l'Écosse, etc. Mais par la suite, ça a pas été bon. Ouais. Mais tu peux aussi imaginer avoir deux attaquants. Tu peux imaginer que Wirtz sorte du 11 de départ aussi. Tu peux imaginer plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le débat en Allemagne, c'est est-ce qu'on doit mettre Füllkrug ou pas. Et ça, c'est un peu Nagelsmann qui doit avoir les mains d'or pour essayer de trouver la sélection miracle contre le Danemark. L'Allemagne sera favorite. Maintenant, on va pas se rappeler l'Euro 92. Moi, j'ai toujours en tête parce que j'ai toujours pas compris comment les Danois ont gagné. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Ça arrive. Et maintenant, on passe dans une autre type de compétition à élimination directe. C'est autre chose. Il n'y a pas de vécu commun dans cette Nationalmannschaft. Et par contre, les Danemark ont une très belle génération et ils nous le prouvent match après match. Moi, je les ai vus exploser complètement les Autrichiens dans des matchs de qualification, matchs amicaux, ce que vous voulez. C'est un match qui est très important pour l'Allemagne. Et puis, on commence à dire quand même en Allemagne que la finale de l'Euro, elle aura pas lieu à la mi-juillet, elle aura lieu en quart de finale. Parce que c'est l'Espagne-Allemagne qui se pointe. Et c'est évidemment, c'est toujours difficile de se projeter sur ce qui se passe, mais pour beaucoup dans la presse allemande, c'est un petit peu la finale de cet Euro 2024 par rapport au niveau des équipes moyennes qu'on a vues lors des
fins. Déjà, techniquement, c'est les deux plus belles équipes.
Finalement, on reste c'est assez marrant parce que même si
le Portugal quand même. Mais...
Non, moi je.
Ça reste un peu les impressions du début sont globalement les bonnes. Même si l'Allemagne, l'impression a été surélevée, surévaluée par rapport à sa victoire contre l'Écosse, qui effectivement disait moins de choses qu'elle ne semblait signifier. Mais tu en ressors quand même avec deux des équipes que beaucoup, enfin, mettaient favoris après les premières minutes, on va dire, de cette Euro. Après, sur Füllkrug, c'est intéressant, et sur l'Espagne aussi, qui abandonne son tiki-taka, entre guillemets. C'est intéressant, les mouvements de balancier dans l'histoire du foot, et est-ce que les grandes compétitions décident ou valident? Parce qu'on est quand même sur quelque chose où t'as quand même envie d'aller remettre des neufs, tu sais, d'aller remettre des neufs, alors, on va dire, à l'ancienne. Entre le Scamacca, entre, moi, je vais parler de Giroud tout à l'heure, entre Füllkrug, que moi, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Füllkrug titulaire. J'ai envie de le voir, ce mec. Il sur 15 minutes, c'est pas suffisant. Peut-être que c'est une erreur, mais en tout cas, sur un jeu parfois un peu plus direct, un peu plus avec du pivot, notamment dans les matchs décisifs, à mon avis, c'est des choses comme ça qui vont être décisives.
Ce sera samedi à 21h, Allemagne-Danemark, ce 8e de finale de l'Euro. Merci beaucoup, Polo. Merci, Fredo. Bonne soirée. Bonjour à vous. Et à très vite.
Salut, les gars.
Dans un instant, les deux grosses nations qui ont déçu. Parmi d'autres d'ailleurs, l'Angleterre et l'Italie avec Julien Laurence, Johan Crochet. C'est l'After en direct jusqu'à minuit avec Flo Gautreau et Walid Acharchour. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h42, vous êtes sur RMC, vous écoutez l'After, première radio de France, le soir à cette heure-ci, premier podcast de France. On est en direct jusqu'à minuit avec Flo Gautreau, Walid Acharchour. Si vous êtes en direct sur YouTube, vous voyez Flo Gautreau qui regarde en l'air, que des grands gestes. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que j'ai demandé de couper la clim? Parce que sinon, je vais peut-être pas pouvoir terminer cet Euro.
C'est vrai que ça caille un petit peu.
Ça caille un petit peu.
J'ai reboutonné le dernier,
comme dirait Hiroki,
dernier bouton.
Ça caille un petit
absolument.
Peu.
Le 32-16, si vous voulez participer à tous nos débats dans quelques minutes, l'équipe de France au programme avec l'avis de Walid concernant le management des Didier Deschamps. Je vois beaucoup de messages également sur la formule, là, le débat improvisé qui est parti. Le problème de cette formule, nous dit Yakinto sur Direct Studio, c'est qu'après 36 matchs, il n'y a que 8 équipes éliminées, 67%.
Il y a aussi Walid, joli crâne.
Oui.
Il y a tout. Il y a à la fois du foot.
Et tu penses de mon crâne,
c'est toi? Ouais, il est entretenu.
Il est joli.
Entretenu.
Ouais. Il y a d'ailleurs.
C'est un entretien quotidien ou.
Mimi Laouette,
ouais, non, non, une fois par semaine.
Domadaire.
Les crânes d'obus vaincront, écrit Mimi Laouette. Ouais. Alors, ça m'arrange pas de ouf.
Les chauves dans le foot sont quand même très très haut.
Des vedettes. Enfin, attention. Le fait de se raser complètement la tête a sauvé. Toute une génération qui avant avait une gueule de pas possible.
Oui, bien sûr, oui, il faut se raser.
Franck Leboeuf, tout ça, il t'en parlerait.
Oui, ça
les a sauvés.
Ouais.
La mode de la boule à zéro.
Les stars du foot, en tout cas ceux qui contrôlent les entraîneurs, etc., il y a beaucoup de chauves quand même.
Ouais.
C'est vrai que Guardiola, t'as raison.
Ouais.
Guardiola,
Zizou.
Non, marche pas avec Régis Lebris, tu vois.
Ah oui.
Marche pas avec Carlo Ancelotti.
Ouais.
Tiens, puisqu'on parle de chauves brillants.
Ah, par contre, le chewing-gum, j'ai remarqué Ferguson, Ancelotti.
Ah, le chewing-gum, ouais.
Le chewing-gum.
Le Hollywood Mante.
Le mâchage chewing-gum.
Mais si t'as les deux?
C'est-à-dire le crâne et le chewing-gum.
T'as pas le chewing-gum.
Non, j'ai pas le chewing-gum.
Wow, t'imagines quand il va prendre le chewing-gum en plus, Walid, déjà qu'il est lancé comme ça va être fou.
Je pense que si Zizou se met au chewing-gum, il gagne la Coupe du Monde avec la France en tant que sélectionneur.
Bah non, parce que ce sera Deschamps.
Non, c'est fini.
Ah, ou la 2030.
Fini, c'est déjà toi.
Non, il finit. Comment ça, c'est fini, les sous-titres?
J'ai écouté Génération After.
Ouais.
Il a dit, et là, Jimmy Brown, qui est au football, ce que le général de Gaulle est à la politique, à peu près.
Ouais.
Il a dit, c'est fini, ça sent la fin de règne. Donc moi, j'ai entendu, il a informé, il a dit, il a des billes.
J'irai écouter ça en podcast dès minuit. Johan Crochet est là. Salut, Johan.
Salut Walid, salut Florent, salut. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut. Et Julien Laurence également, salut Julien.
Salut Thibaut, salut à tous.
Bon voilà, on a deux talents, on a le chauve et le chewing-gum, donc c'est magnifique. Les gars,
mais nous en Italie, Thibaut, tu sais, on n'a pas toujours rasé la tête. Hein. Antonio Conte allait faire un petit tour en Turquie et d'une coupe pas possible, il arrivait à une superbe coupe avec des très beaux cheveux.
Ah oui, c'est vrai que c'est la plus.
Ça,
c'est
chez nous aussi, mais nous ça marche moins bien.
C'est la plus.
La Wayne Rooney par exemple.
Conte, c'est la plus grande grève de l'histoire, je pense.
Ouais.
Avec Yves Calvi.
Non. Antonio Conte, tapez Conte Calvici sur Google, vous allez être impressionné.
Excuse-moi, Yves Calvi, c'est juste pour le jeu de mots, vraiment?
Non.
Yves Calvici, tu veux dire?
Non, ah oui, non, même pas, non. Il a eu un réarmement capillaire d'enfer. Et par ailleurs, il y avait à une époque aussi une analyse des coachs survêtes ou costards, tu sais, pour voir ceux qui réussissaient. Les coachs survêtes ayant à un moment donné avait le vent en poupe. Je sais pas trop, maintenant ils sont tous en costard, j'ai l'impression, tous un peu. C'est fini le coach survêt. Parce que Aimé Jacquet, coach survêt, Luis Felipe Scolari, coach survêt, ça gagne.
Non, mais après, t'as le casual wear. Regarde Pep Guardiola, par exemple, casual.
Il n'y a plus le survêt. Hein.
Si, Klopp, bien sûr, survêt, Klopp, tout le temps.
D'accord. Will Steel.
Ouais, mais sur l'euro, là.
Ah, sur l'euro.
Ah, sur l'euro, c'est un peu différent, les équipes nationales.
Ouais. Regarde, hier.
Non, mais je te dis,
Willy,
à l'époque.
Willy, il était en.
Survêt, chemise.
Non, t-shirt
Hugo Boss.
Oui, ouais, c'est très chaud. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à une époque, je te dis, Jacquet, Zagallo, machin, c'était du survêt.
Et Domenech, c'était comment?
Domenech, c'était costard. Mauvais costard mal taillé.
Bizarre ce que tu dis. Bilan du premier tour des grosses nations avec Julien, avec Johan. Et là, on a ouvert la page des nations qui ont un peu déçu, voire énormément déçu. Et commençons par l'Angleterre, Julien, que beaucoup mettaient avant le début de la compétition en favori quasiment numéro 1. Et après 3 matchs, c'est peut-être l'équipe qui a le plus déçu finalement, Julien. Est-ce que en Angleterre, on a ce sentiment là aussi?
Ouais, complètement. T'as raison. Avec la Belgique, peut-être, parmi les gros, mais encore leur statut à eux de favori était largement supérieur à celui des Belges. Donc oui, la chute entre le statut de favori et ce qu'ils ont produit sur le terrain. Après, parce qu'après au niveau comptable, bon, ça peut passer à la rigueur. Tu peux dire ça passe un peu ric-rac, mais ils sont quand même premiers. Ce qui fait qu'ils ont quand même, mais ils ont une chance incroyable. Encore une fois, dans la partie de tableau la plus facile, comme en 2018, comme en 2021, encore une fois. Southgate, on l'a dit, hein, c'est le pire entraîneur de cet euro et c'est le plus chanceux. Donc comme ça, au moins, il est bien, le Sylvain Ripoll anglais. Ah oui. Mais oui, donc la chute est quand même terrible. Sincèrement, les critiques, ça faisait très longtemps que la sélection n'avait plus été attaquée comme ça. Depuis depuis les années un petit peu noires, enfin noires entre guillemets, les années où rien ne marchait finalement, où ça fonctionnait jamais, malgré les effectifs talentueux ou les équipes talentueuses. Il y avait toujours un problème et ça se passait jamais très très bien, notamment dans la relation avec les médias. Et ça remonte quand même à il y a longtemps. On doit remonter peut-être aller à 2016 et la défaite contre l'Islande à l'Euro en France, où là ils avaient pris très cher. Mais depuis, ça s'était, on l'a expliqué plein de fois, mais ça s'était pacifié. Il y avait beaucoup plus de sérénité. Les journaux anglais, les médias, les télés, les radios étaient peut-être plus sympas entre guillemets, on va dire, avec la sélection, même quand ça jouait pas très bien, parce qu'il y avait justement cet élan déjà, et puis ce côté un peu plus, allez, on est serein maintenant, on va pas leur taper dessus à la moindre opportunité. Et ben tout ça a volé en éclats en l'espace de 15 jours, on va dire 15 jours depuis le début de l'Euro. Ils prennent, mais c'est d'une violence parfois assez incroyable.
Mais est-ce que avant ce huitième de finale contre la Slovaquie, tu penses que tout Southgate qu'il est, il peut se remettre en question notamment son schéma, peut-être se dire de éventuellement faire redescendre un peu Bellingham, réaxer Foden, des choses qu'on aurait tous envie de voir un petit peu. Est-ce que ça, on risque de le voir sur cet euro ou pas du tout?
Alors sous la pression populaire, oui, et j'espère vraiment que il va finalement répondre de cette façon-là à la pression populaire et s'incliner, ça c'est le mot que je cherchais, s'incliner face à la pression populaire. Effectivement, alors je pense que ce sera plutôt Kobe Mainoo qui débuterait à la place de Gallagher ou Alexander-Arnold, les deux joueurs qui ont joué à côté dans un milieu à deux avec Declan Rice, que Bellingham restera plus haut. De toute façon, Bellingham, il veut plus jouer plus bas. Lui, il veut jouer qu'en 10. Ça, c'est réglé. Et donc forcément, si Bellingham est en 10, soit tu mets Foden à gauche, soit tu dis, hey, Phil, tu viens d'avoir un troisième enfant à 22 ans, 23 ans. Ouais, déjà, ouais. Un troisième, un petit garçon. Il a fait l'aller-retour, là, et il rentrera demain en Allemagne. Peut-être que c'est un peu juste pour maintenant débuter ce huitième de finale. Donc, tu sais quoi, repose-toi un peu, célèbre la naissance de ton petit, et je vais faire jouer Gordon avec Bellingham dans l'axe et Saka à droite ou quelque chose comme ça. Mais
ou un Foden, j'ai du mal à y croire. Qui a fait une bonne entrée, Cole Palmer, j'ai trouvé.
Ouais, alors il a l'air de vouloir faire jouer à droite, donc c'est Palmer ou Saka. Ce serait quand même dur, même si Saka n'a pas été très bon dans cette phase de poule, par rapport à tout ce qu'il a fait en sélection, les saisons qu'il a eues avec Arsenal sur les deux dernières années. Ce serait dur quand même de l'écarter comme ça maintenant. Mais bon, oui, t'as raison, peut-être, pourquoi pas, il a fait une bonne entrée.
Mais est-ce que vous voyez les gars, et notamment Walid et Flo, l'Angleterre, pouvoir, tu sais, la fameuse théorie de l'interrupteur, et que tous ces joueurs.
De toute façon, ils peuvent pas jouer pire. Juste avant, avant que les gars parlent, ça peut pas être pire. Donc, ici en Angleterre, tout le monde se dit qu'à un moment, ils vont quand même élever leur niveau de jeu, c'est obligé, parce que tu peux pas faire pire que ce qu'ils ont fait pour l'instant.
Et moi, je me dis, à chaque match, sur les trois premiers matchs, je me suis dit, ça peut pas être pire. Et à chaque fois, je suis encore déçu de leur prestation. Maintenant, comme l'a dit Julien, en fait, la seule bonne nouvelle, c'est qu'ils sont dans la partie de tableau favorable. Même si, attention, jouer la Slovaquie, jouer derrière l'Italie ou la Suisse en quart de finale, ça va pas être une partie de plaisir. Mais quand tu vois ce qui se passe dans le Royal Rumble de l'autre côté, avec Belgique, France, Portugal, Allemagne, Espagne, tu te dis que c'est la seule bonne nouvelle de cette phase de poule, qu'avec 5 points en étant premier, tu peux te frayer un chemin un peu plus abordable. Maintenant, il va falloir que individuellement déjà, parce que moi j'attends plus rien de Southgate, que individuellement il y en ait qui se réveillent et qui osent leur niveau de jeu.
Alors l'Angleterre contre la Slovaquie, 8e de finale, c'est dimanche et ce sera à 18h. 18h dimanche sur RMC. Merci beaucoup Julien d'avoir été là.
Merci
cette
les
soirée.
Gars. À dimanche.
Bye bye. Ciao. Dans un instant l'Italie avec Johan Crochet, c'est l'after qui continue. On a pris du retard avec Willy Sagnol, mais c'est pas grave, c'était bon. Avec Flo Gautreau, avec Walid Acharchour, dans un instant le bilan de l'Italie et puis l'équipe de France. À partir de 23h, on fera un point crâne aussi. Je vois tous vos messages. Ne vous inquiétez pas sur YouTube, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Walid Acharchour, avec Flo Gautreau, on passe la soirée ensemble en direct jusqu'à minuit avec vous tous au 32-16 sur YouTube également. Johan Crochet est là pour faire le bilan de cette équipe d'Italie, tenante du titre pour un peu plus de 15 jours, au moins. Johan, c'est vrai que quand on voit cette première phase de groupe, on a du mal à rajouter le au moins quand même. Hein.
Ouais, on verra. C'est vrai que c'est clairement pas brillant. Il n'y a pas de quoi être hyper enthousiaste après la phase de groupe de l'Italie. Déjà parce que tu es passé par un trou de souris et avec les résultats des groupes EF, on s'est rendu compte que si Zakaj n'avait pas marqué son but contre
Croatie.
Contre la Croatie, merci. L'Italie ne serait pas passée parce qu'elle n'aurait pas fini dans les quatre meilleurs troisièmes. Donc c'est vraiment à l'arrache, mais à l'arrache de chez l'arrache. Et ce qui est compliqué, c'est que parfois tu peux avoir une phase de groupe difficile et en te disant bon, on a quand même des éléments qui nous permettent d'avoir un léger optimisme avant d'entrer dans cette phase de groupe, de cette phase pardon à élimination directe. Ça pourrait être, je sais pas, des individualités qui sortent du lot, ça pourrait être des joueurs qui reviennent de blessures, ça pourrait être quand même une ossature sur laquelle tu peux compter et qui peut monter en régime dans la compétition. Et en fait, tu n'as pas ça. Tu as des incertitudes sur le système de jeu, tu as des incertitudes sur les leaders de cette équipe là tu as des incertitudes sur même les joueurs qu'il faut aligner. Tu n'as pas eu la qualité du jeu, tu n'as pas eu les résultats. Donc finalement, pour trouver des éléments favorables à l'Italie, t'es obligé de gratter assez loin et te dire bah Calafiori a été important. Ah oui, mais Calafiori il est suspendu contre la Suisse, donc on n'a même pas ça non plus. Donc on va gratter un peu plus loin et on trouve Donnarumma qui est vraiment la sécurité totale de l'Italie depuis le début de cet Euro, qui est avec sans doute Mardashvili le gardien le plus décisif pour sa sélection depuis le début de la compétition. Mais c'est un peu maigre si t'es en train de te dire contre la Suisse on va mettre un cierge et puis on espère que Donnarumma fasse des miracles comme il l'a fait depuis trois matchs dans cet Euro 2024. C'est un peu léger pour une nation comme l'Italie qui t'a habitué à bien d'autres choses.
Il y a peut-être le problème de l'Italie, on parlait de l'Angleterre il y a un instant, c'est peut-être finalement le problème inverse, c'est que les Italiens, il y a aussi un problème de joueurs simplement, un problème de niveau de joueurs.
C'est pour ça
que
je voulais rebondir en comparant les deux déceptions de l'Euro. C'est-à-dire qu'il me semble que si pour l'Angleterre ça peut changer positivement, c'est parce que quand même offensivement, tu as un matos qui fait que si les joueurs se prennent en main comme dans certaines sélections hors Southgate et vu le tableau, oui, tu peux peut-être retrouver quelque chose de sympa. En revanche, côté italien, à partir du moment où tes éléments, on va dire défensifs et donc à la Fiori étaient les plus satisfaisants, enfin mais offensivement c'est très faible. Bah là, tu te demandes comment tu vas faire pour gagner les matchs. Parce que oui, ok, tu peux marquer un but par match comme ça à la fin, tout près de la fin du temps réglementaire, ça arrive. Mais moi, je suis presque plus inquiet pour l'équipe d'Italie. Parce qu'à un moment donné, tu le vois même avec toutes les sélections, la Géorgie, si elle s'en sort et si elle fait cet exploit, c'est parce qu'elle a deux joueurs offensifs exceptionnels par rapport à ce qu'on voit.
Et un gardien,
voilà ce qu'on disait tout à l'heure.
Elle n'a presque pas besoin d'entraîneur d'ailleurs.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ok, tu peux faire toute une compète comme ça sans avoir quelqu'un, même, tu vois, un remplaçant qui te sort du banc, qui te met un but à Füllkrug pour les Allemands, tu peux avoir.
Là, tu as eu Zaccagni. Ouais, mais t'as eu Donnarumma.
Oui, oui, t'as eu Zaccagni. Mais bon, quand même, moi, je pense que pour recomparer les deux, la vraie difficulté pour l'Italie, ce sera quand même d'y arriver avec offensivement cette déception.
Flo, ouais. Offensivement, cette équipe-là, elle te semble vraiment inférieure à celle de 2020.
Ils sont pas touchés, les attaquants. Moi, Chiesa, j'adore Chiesa.
Enfin, Chiesa, il joue pas déjà.
Non, mais Chiesa.
Enfin, il joue pas le dernier match.
Quoi. Non, mais Chiesa, par exemple, qui pour moi est le meilleur attaquant, il est dans les premiers matchs, il est très peu touché par le reste de l'équipe. Donc, quand je dis offensivement.
Pas le premier match, ouais, le deuxième match, mais pas le premier.
Mais si tu veux, c'est pour ça que cette équipe, moi, offensivement, je suis pas convaincu. Moi, j'adore Scamacca, mais je suis pas convaincu par Scamacca, là, de ce que
c'est
je vois.
C'est qui, Johan, qui va remplacer Calafiori? C'est Alexandre Bonjour, là?
Alexandre Bonjour. En fait, ça va déjà dépendre du système, parce que si tu repasses
Alexandre
à 4.
Bonjour, non?
Si tu repasses à 4, c'est clairement Mancini, okay. Dans une défense avec Bastoni. Si tu es à 3, moi je pense que ça sera quand même Mancini dans une défense à 3. Et après, reste à savoir s'il jouera central axe droit ou central tout court, avec axe droit par exemple à Matteo Darmian. Moi je pense que l'Italie repartira sur une défense à 3 parce que ça a donné quand même un petit peu plus de satisfaction et que le traumatisme de la défense à 4 avec des latéraux très exposés défensivement qu'a eu l'Italie contre l'Espagne, ils ont pas envie de le revivre avec des joueurs qui vont très très vite en transition, notamment en partant sur les côtés.
Mais donc à 3, il intégrerait Di Lorenzo dans la défense à 3?
Non, pour moi, ça serait, je pense, hein, pour le moment, en Italie, personne ne le sait.
Okay.
Je disais encore un article de la Gazzetta, 10 questions sur le match contre la Suisse, et il y a 1000 questions, il y en a même pas 10, il y en a 1000 sur comment articuler cette équipe-là. On sait pas quel va être le 9, on sait pas quel va être le milieu de terrain, et on sait pas quelle va être la charnière. Donc, encore une fois, je reviens à la seule certitude qui est Donnarumma. Et je pense que ça devrait, enfin, pour
donc
moi,
3, c'est quoi pour
le
toi
plus logique pour moi, c'est Darmian, Mancini, Bastoni.
Ah, d'accord, Darmian, ok.
Ouais. Avec la mauvaise nouvelle, c'est que ton meilleur joueur, en tout cas, ta révélation aux yeux du grand public, Calafiori, le défenseur central après, numéro 10,
après,
soit absent.
Moi, j'ai été déçu de l'Italie, mais l'Italie, sur un euro, ça reste quand même l'Italie. La Suisse, qui pour moi est favori de par ce qu'ils ont montré.
Suisse favorite là contre l'Italie
en 8e. Dans mon esprit. Ouais. Pas chez les bookmakers, mais dans mon esprit, pour moi, la Suisse, ce qu'ils ont montré notamment sur le dernier match contre l'Allemagne, ils ont pour moi beaucoup plus de certitude et puis ils ont une colonne vertébrale qui est très très forte, avec en plus Mbolo qui vient de rajouter sa puissance, le fait de peser dans les défenses qui peut être intéressant. Un Endoy aussi qui connaît bien l'Italie parce qu'il joue à Bologne, qui a fait un très bon match contre l'Allemagne. Je me dis qu'ils ont des atouts. Maintenant, la Suisse reste la Suisse et l'Italie reste l'Italie. C'est-à-dire que la Suisse, hormis ce plafond de verre sauté contre les Bleus à l'Euro 2021, souvent ils ont du mal à aller en quart de finale avec des premiers tours plutôt cohérents. Et l'Italie, parfois c'est un peu l'inverse. Et ils ont gagné le dernier Euro. Ils ont été en 2016 en quart de finale en étant sortis par l'Allemagne au tir au but et en sortant l'Espagne.
Mais en étant sortis surtout par le tir au but de Simone Zaza.
Oui, ça, oui, c'est vrai. Il faut le rappeler. Et en sortant l'Espagne au Stade de France en huitième de finale, où on se disait, oulala, l'Espagne, ça va être très très compliqué. Donc, ils ont toujours quelque chose, l'Italie, même si individuellement, tu l'as dit Thibaut, c'est un peu plus faible. Moi, je me méfie quand même.
Ok, ce sera samedi à 18h, ce sera le premier huitième de finale de cette
Euro. Les enterre pas.
Suisse-Italie. Merci Johan.
Ciao, ciao, messieurs.
Bonne soirée à toi. 23h de petite pause. On est de retour dans l'After avec Walid Acharchour, avec Florent Gautreau, avec vous tous sur YouTube, la chaîne de l'After, et au 32-16 pour parler de l'équipe de France avant le 8e de finale face à la Belgique. Avis à suivre dans un instant de Walid. Le management de Didier Deschamps inquiète Walid. Il va nous expliquer pourquoi. Et on vous attend au 32-16 pour en débattre. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Foot.
RMC.
Première, je voudrais dire pardon à les supporters.
Je demande pardon à nos supporters pour ces résultats.
Je dis pardon à tous les supporters.
Je dois juste dire à nos supporters excuse.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
23h04, merci d'être là. On se jeudi soir, le 27 juin. Florent Gautreau, Walid Acharchour en direct jusqu'à minuit, toujours en direct sur YouTube. Pour une heure d'euros encore à passer ensemble avec dans un instant l'avis tranché de Walid concernant le management de Didier Deschamps. Avis de Flo également à suivre concernant ce huitième de finale contre la Belgique. On va se projeter. Flo veut voir Giroud titulaire s'il est à 100%. 32-16 si vous voulez venir réagir et participer au débat dans l'After. Et puis en fin d'émission, l'actu du jour, sorte de mercato show. Grosse journée pour les Olympiques lyonnais et marseillais. Il y a des transferts qui se font déjà. On va vous raconter tout ça. On on est aussi un petit peu sur notre débat parallèle sur les cheveux. J'ai vu sur le Direct Studio, on me dit Lewis Hamilton, le plus gros comeback de l'histoire de la F1, les cheveux de Lewis Hamilton. C'est vrai que il était.
C'est vrai. Et dans le top 3, on pourrait rajouter Ter Stegen aussi.
Ah d'accord.
Ah je l'ai pas aussi.
Ter Stegen qui a fait un petit passage en Turquie, mais pas pour jouer au football.
Puis sur YouTube, on nous dit Laurent Baffy, la grève de cheveux qui a clairement échoué, c'est celle de Rafa Nadal. Effectivement, c'est un échec cuisant.
Ouais, Rafa, cuisant, ouais. Rafa. Beaucoup plus fort avec son coup droit en lasso.
Ouais. Mais voilà. Après, le chauvinisme, comme on dit, va très bien.
Exactement.
Et te va très bien, Willy.
Oui. Si vraiment. On en est fier. Et assumons nos calvitie en 2024.
Exactement.
Et certaines équipes ont pu aligner leur coiffeur.
Oui, ce qui n'a pas été le cas de l'équipe de France.
C'est pas le cas pour les Bleus.
Dont on va parler maintenant. Les Bleus qui, aujourd'hui, se sont entraînés. Conférence de presse avec la défense centrale. William Saliba, Dayot Upamecano. Sachez également, notre cellule équipe de France, nos reporters qui suivent les Bleus, nous remontent également ce soir que cette inefficacité offensive des Bleus, Didier Deschamps cherche à comprendre ce qui se passe. Il a bien vu Deschamps ses stats qui font que les joueurs français ont cumulé 5,7 expected goals, les buts attendus suite aux occasions créées par l'équipe. Donc la France qui est aussi la nation qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Donc Deschamps a ces stats-là en main. Il donc met lui en avant dans sa réflexion le fait que c'est peut-être un manque de confiance et donc il s'attache en ce moment à travailler sur la confiance de ses attaquants en espérant qu'un déclic intervienne. L'équipe de France qui affrontera la Belgique.
En parlant de l'efficacité, j'ai vu un très bon tweet de Martin Monnier, un collègue d'Eurosport, après la rencontre, qui disait qu'hormis Kylian Mbappé.
Ah, Jean-Baptiste ?
Non, Martin Monnier. Okay. Ouais. Il disait que hormis Kylian Mbappé, les stats des offensifs cette saison en championnat étaient faméliques. Je crois que ça dépassait pas les 10 buts.
En équipe de France.
En équipe de France.
Ah oui.
Équipe de France.
Le deuxième meilleur buteur derrière, il doit être à 5 buts.
Exactement. Bah oui, parce que le deuxième meilleur buteur, il est chez les Olympiques.
La Cazette
est avec l'équipe olympique, donc elle peut
aussi, c'est une histoire, aussi peut-être une histoire de choix d'homme dans les listes.
Non, mais
c'est en termes de confiance, si tu prends des joueurs qui sont pas en confiance dans leur club.
Ouais, non, mais alors d'un autre côté, Wallis, on a une vieille stat qui date de 2002. Où on avait les meilleurs buteurs de 4 championnats, au départ pour la Coupe du Monde, et on est reparti.
Trezeguet, Henry, Cissé.
Et Guivarch, non, c'est pas un truc comme ça. Non, c'est Guivarch, 98. Peut-être 3.
Et on n'avait pas mis un but, c'est ça, 2002.
Pas un but, zéro but.
Retour sur l'équipe de France 2024 avec l'avis de Walid.
Ça commençait à devenir un petit peu effilé façon oignon.
Tu nous as dit ça ressemblait à Bouteflika.
À Bouteflika.
Ah oui.
Malheureusement, à ce moment-là, j'ai dit on va raser le kiwi.
Ah bah voilà. En rapport avec Fort Team à la Real ce soir.
Exactement. Je disais en fait le tweet c'est sur le 11 de départ. Sur le 11 de départ de Didier Deschamps, hormis Kylian Mbappé, aucun joueur n'avait dépassé les 5 buts en championnat cette saison.
On avait totalement compris, mais.
Vous avez compris.
Le gardien qui n'avait pas marqué 5 buts, Saliba.
Du coup, on a bien.
Vaut mieux préciser aussi.
Oui, c'est vrai. Du coup, on a très bien compris.
Oui, je voulais parler du management de Didier Deschamps qui m'inquiète avec plusieurs points. Il y a beaucoup d'articles. Fabrice Hawkins en a parlé notamment hier soir, qu'il y avait certains joueurs qui se plaignaient du management, du fait que Didier Deschamps mettait un peu de côté les remplaçants, que certains leaders, je crois que Flo parlera de Giroud tout à l'heure, de Griezmann aussi qui a été écarté sur le troisième match. Il y a aussi beaucoup d'articles dans l'équipe cette semaine qui parlent de cette gestion de Deschamps qui fait débat. Et moi, ça m'inquiète parce que ça. C'est pas dans les habitudes de Didier Deschamps quand même sur les dernières compétitions, hormis peut-être 2021 où il s'était un petit peu perdu et on l'avait vu en 2021 comment ça s'était terminé. Il a quand même une ligne directrice et là je trouve que sur les 3 matchs en termes de management, je ne l'aperçois plus. Je vais commencer avec bien évidemment le premier match.
où il met Saliba, qu'on appelait de nos voeux, de par ses performances à Arsenal, mais qui, il y a trois mois, où il nous disait que Saliba, il avait trop de manque, et que pour lui, il n'était pas aussi fort que le journaliste le disait en conférence de presse. Après un match, un bon match de Saliba contre le Canada, il l'impose titulaire, alors que sa charnière centrale était ou pas Mécano Konaté, donc il sort complètement Konaté des trois matchs pour mettre Saliba. Au passage, c'est une réussite, hein, c'est peut-être notre satisfaction des phases de poule. Mais déjà, en termes de management, je trouve que le volte-face en trois mois est un peu étonnant de la part de Didier Deschamps. Première chose. Deuxième chose, le cas de Tchouaméni. Le cas de Tchouaméni, après N'Golo Kanté, moi je suis persuadé qu'N'Golo Kanté arrive en équipe de France parce que il a entrevu des gros manques contre l'Allemagne lors du dernier match amical, notamment sur le dernier rassemblement, et qui ramène Kanté un peu comme quand il ramène Benzema en 2021, parce qu'il se dit, oulala, dans ce secteur de jeu là, il va falloir que j'apporte de la fraîcheur et de la fiabilité. Sauf que entre temps, on a Tchouaméni qui est blessé, et Tchouaméni qui était le titulaire au poste de cette équipe de France qui a un certain statut, et on commençait à avoir des petits bruits de couloir. Thibaut, vous voyez, Tchouaméni, il n'a pas démarré le premier match, il était un peu frustré. Et moi, je pense que sur le deuxième match, il met cette association à quatre avec Rabiot, Griezmann, Tchouaméni et Kanté, parce que il ne peut pas sortir Rabiot et Kanté après le premier match contre l'Autriche parce qu'ils sont très très bons, qu'il ne peut pas sortir Griezmann à ce moment-là. Et donc, il fait ce petit compromis en disant non, Barcola, il est un peu trop léger, il a pas d'expérience, je vais pas le lancer contre les Pays-Bas, et je vais faire un compromis, tout le monde sera content, et puis on va intégrer Tchouaméni au poste de milieu de terrain. Donc dans le management, encore une fois, j'ai l'impression que Didier Deschamps veut faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et sur le troisième match, j'arrive sur le bouquet final, on repasse en 4-3-3, et là, pour le coup, il coupe une tête, celle de Griezmann. Il met Barcola, alors qu'on l'appelait de nos voeux contre les Pays-Bas, en sortie de banc ou au poste de titulaire. Barcola, qui est le meilleur joueur avec Mbappé offensivement, en tout cas le plus dangereux sur les 60 minutes, il sort à la 60e, alors que Dembélé, qui apparemment a un statut, un totem d'immunité, sort à la 80e derrière Barcola. On a un Griezmann qui rentre et qui fait l'amour, hein, clairement, qui a une attitude qui est très très bizarre. On a un Marcus Thuram qui joue les deux premiers matchs. Giroud qui ne joue pas, qui boude un petit peu. Enfin, apparemment, il veut pas trop bouder selon les articles de l'équipe, parce qu'il veut pas mettre en péril l'équipe de France, mais il comprend pas trop la gestion de Deschamps. Il pense qu'il peut apporter beaucoup plus parce que il estime qu'il a un statut dans cette équipe. Et je trouve qu'il est en train de s'embourber dans les statuts, sans compter la déclaration de Fofana, sans compter apparemment certains joueurs qui sont pas content d'avoir des minutes, Konaté, et on est en fait dans le flou total avant ce huitième de finale où on sait pas si on va repartir avec Thuram, on sait pas si on va repartir avec Giroud, quid de Griezmann, quid du milieu à 3, du milieu à 4. Et voilà, moi je trouve que Deschamps s'est embourbé dans une espèce de management sur les trois matchs qui m'inquiète fortement.
32-16, si vous voulez venir réagir, d'accord ou pas avec Walid Flo?
Ouais, plutôt d'accord, et surtout sur les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire, t'as cité l'Euro 2021.
Oui, déjà, il avait fait un peu des compromis, c'était, un peu partout.
C'était déjà un peu bizarre, et là où on avait vu qu'il avait perdu la main, c'était pour moi dans la séquence avec Coman, qui refuse de sortir. C'est-à-dire que Deschamps, c'était quand même le boss absolu, tu vois. Cette séquence, elle est dingo, et je m'étais dit en 2022, quand Benzema est parti, que ça a arrangé tout le monde après l'avoir rappelé, mais à ce moment-là, c'est que pour lui, c'était plus simple après de gérer ce groupe comme ça. Il a repris la main en fait sur son groupe pour la Coupe du Monde, ce qui explique aussi la réussite en Coupe du Monde, alors que footballistiquement, l'équipe de France n'est pas meilleure pour autant. Mais effectivement, comme Deschamps, sa grande plus-value, c'est le management justement, d'ordinaire, c'est par ce biais-là qu'il arrive à constituer un groupe, une osmose de groupe à la Jacquet, hein. C'est très très simple, hein. C'est le copier-coller, avec encore un peu plus d'expérience, un peu plus de longévité, donc pour les jeunes joueurs qui arrivent, un peu plus, ils sont un peu plus impressionnés par le bonhomme normalement. Mais là, t'arrives toujours dans la deuxième phase, c'est-à-dire quand les joueurs se sont un peu plus installés, c'est-à-dire que quand tu prends la première phase où les mecs débarquent, tu les as à ta main. Dès que tu commences à avoir des gens qui ont un peu plus de carrure, genre Benzema, compliqué, un coup de bol, il est blessé et on le retient pas, il se barre. Je reprends la main sur le groupe. Et là, c'est vrai que cette année,
ben là pourtant on est là-dessus là. Il y a eu des départs, il y a les Varane, ouais, il y a Lloris.
Sauf que là, attention, t'as des mecs à statut qui jouent pas. C'est-à-dire Giroud, mec à statut, qu'on le veuille ou non, qui joue pas. Griezmann, grosse surprise, mec à statut qui avait enchaîné, c'est un record, 31 matchs consécutifs dans les grandes compétitions. 32, je sais plus, entre que ce soit Euro ou Coupe du Monde. C'est du jamais vu en équipe de France. C'était du jamais vu. Donc là, il lui a coupé sur un match sans raison. Je veux dire, pas de suspension, pas de blessure. Il a coupé Griezmann. Il faut se souvenir pour Griezmann que le capitana, c'est pas totalement une affaire enterrée. C'est-à-dire que cette histoire de capitana, moi-même j'avais milité pour Mbappé, mais après coup je suis plus très sûr d'avoir eu raison. Mais peu importe. En tout cas, Griezmann, de la façon aussi dont ça avait été communiqué, l'avait pas bien pris. Donc c'est vrai que tes relais, les joueurs qui sont avec toi, que t'as soit soutenu, soit faut se rappeler que Giroud, l'histoire avec Deschamps, elle est pas aussi simple que ça. Giroud, à un moment donné, il lui dit, en gros, il a fait, et c'est terminé. Et Giroud rappelle, en l'emmerdant, en lui disant, non, mais moi, je suis prêt à être sur le banc, il n'y a pas de problème, je suis prêt à venir à la Coupe du Monde. Donc, ça fait beaucoup de trucs, à mon avis, où les mecs, entre eux ou en eux-mêmes, se disent, ils ont dit le coach, mais ils commencent à nous gonfler. Et puis, il y a le cas Mbappé. Comme dans toutes les équipes où il y a Mbappé, comme au PSG, quand tu vois que l'équipe, t'es obligé de la changer dans tous les sens parce que tu sais pas où mettre Kylian, parce que bon, Luis Enrique, c'est le grand méchant loup, évidemment, on sait. Sauf que Luis Enrique, Mbappé l'a remercié d'ailleurs, hein, il m'a sauvé la vie dans le truc pour dire qu'un mec qui te déteste soi-disant, tu sais, au passage. Mmh. Mais c'est compliqué. Donc les autres joueurs disent, bon, bah, ok, comme d'habitude, on change l'équipe parce qu'il veut pas défendre, on le met en neuf, ah, mais il veut pas faire pivot, on veut machin. Donc, quand un coach se met, on va dire comme ça, au service d'un joueur, bah pour les autres joueurs, si, quand ça gagne, ça passe. Mmh. Quand ça commence à moins gagner et à moins marquer, c'est compliqué. Donc là où je rejoins Walid là-dessus, maintenant, l'histoire, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que Deschamps, c'est quand même un magicien. En termes, là, je parle de management. Deschamps, sa vie est assurée en termes de conférences dans les entreprises jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, c'est un cas d'école. Si on était à l'analyse de l'euro à la fin, je dirais, bon, ok, c'est ça l'histoire de l'euro, mais là, il a les moyens de reprendre les manettes, enfin, il a les moyens, ou pas.
Oui, mais on a eu trois compos différentes,
alors Flo. Peut-être, mais en tout cas, la seule chose, c'est que j'attends plus qu'un avis définitif, moi maintenant, là, j'attends de voir comment Deschamps va reprendre la main sur
comment
son groupe parce que je pense que, okay. Effectivement, la clé pour les Bleus, c'est pas le jeu. On va pas retrouver de l'animation offensive comme ça entre deux matchs.
C'est le management.
C'est le management.
On continue le débat dans un instant avec Walid qui a encore des choses à dire. Ouais. Avec Flo, avec Majid qui nous a appelé au 32-16 et qui patiente, qui sera avec nous en direct dans un instant. N'hésitez pas, hein, le 32-16 si vous voulez venir débattre avec l'after où on va se projeter également vraiment côté terrain sur ce match de la Belgique avec Giroud en débat dans un instant. Vous êtes sur RMC, c'est l'after. On est en direct jusqu'à minuit. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Quel plaisir d'être avec vous en ce jeudi soir sans match de l'Euro, mais after comme tous les soirs de l'année avec Florent Gautreau, avec Walid Acherchou. On est en direct jusqu'à minuit avec vous tous sur YouTube. Vous êtes très nombreux ce soir. Merci d'être là. La chaîne de l'after, @after-foot et au 32-16. Dans quelques minutes, l'avis de Flo qui milite. Est-ce que tu milites d'ailleurs, parce que c'est un peu
important
pour la titularisation de Giroud.
Pendant combien d'années j'ai milité pour Olivier Giroud?
C'est vrai qu'il faut peut-être.
Quand j'ai vu le teaser, j'étais très étonné. Tu vois. Flo Gautreau qui demande Giroud titulaire.
Alors, à un moment donné, je l'ai même bizarrement, je lui ai demandé de prendre la porte de l'équipe de France. Ça m'est arrivé quand même.
Mais ça, on l'a oublié, tu vois.
Ah, on l'a oublié.
Mais d'abord,
ça me permet juste de.
La vie de Walid, ouais.
Désolé, je l'ai dit sur Twitter, mais pas dans l'after.
Mais Twitter n'est pas la vraie vie. Donc dis-le dans la vraie vie.
Là, c'est la vraie vie. Comme Giroud, évidemment, vous le savez, a joué à Tours. J'ai un message pour tous les supporters, tous les fans du club de Tours, parce que j'ai eu liquidation judiciaire cette semaine. Un désastre total pour un club qui était déjà relégué, qui jouait en National 3 cette saison, mais qui avait déjà perdu de sa splendeur, mais qui est donc liquide administrativement. Il y a certains appels possibles, mais je voulais avoir un message pour tous les gens qui suivent le club et surtout pour les joueurs et les jeunes qui jouent encore, parce que c'est un maillot bleu ciel et noir pour nous qui est mythique, et pour moi évidemment c'est incroyable, c'est une douleur dingue, parce que c'est un club qui est monté en première division et qui a été pro pendant longtemps, Donc message pour les supporters, les joueurs actuels et les gamins du club et les éducateurs pour cette nouvelle galère qui va faire redescendre le club je ne sais où, dans je ne sais quelle division. C'est dans ce club qu'Olivier Giroud notamment a joué.
C'est révélé d'ailleurs en Ligue 2 je crois.
Ouais, c'est là qu'il a rebondi.
Pas que, Denis Bouanga,
Bouanga,
un ami à moi,
Andy Delors,
Arisbel Kebla qui a joué là-bas.
Andy Delors,
ton ami.
Ouais, j'ai joué avec lui à Aubervilliers quand j'étais petit.
Et lui il a percé. Hein, lui il a percé dans le football.
Ouais, moi, mais Arisbel Kebla il fait pas l'after.
Ouais. Moi, je suis avec Thibaut Jean-Grand, je fais des émissions.
C'est qui?
C'est toi?
Ah oui. Dans un instant, l'avis de Flo. Mais d'abord, on conclut sur l'avis de Walid, inquiet du management de Didier Deschamps. Et on a Majid qui nous appelle au 32-16. Salut Majid, bienvenue sur RMC.
Merci, salut à tous.
Merci d'avoir patienté. Est-ce que t'es d'accord avec Walid? Alors, est-ce que toi aussi t'es inquiet par le management de Deschamps cette année?
Bah, en fait, j'aimerais rappeler à Walid que Deschamps, depuis 12 ans, même l'époque où il était entraîneur, c'est un mec qui s'appuie sur un noyau dur de 15, 16, 17 joueurs. Et en général, les coiffeurs, ils jouent que quand le troisième match est déjà plié. Donc bon, il n'y a rien d'étonnant pour moi. Le seul truc qu'on peut voir, c'est que Deschamps, il part avec des incertitudes physiques de son milieu de terrain. Griezmann, fin de saison avec Atlético, il était rincé. Rabiot vient blessé, Tchouaméni blessé. N'Golo Kanté, pour interrogation sur sa condition physique, même si il a mis tout le monde d'accord sur le premier match face à l'Autriche. L'animation offensive, on n'en a jamais vraiment eu. Si, avec Griezmann, mais bon, par intermittence, pas vraiment de duo qu'on aurait pu avoir comme dans les années précédentes. Moi, personnellement, l'équipe de France, je la vois toujours favorite, parce que pour moi, il n'y a pas, à part un peu l'Espagne, qui m'ont impressionné, mais sinon, pour moi, il n'y a pas vraiment de gros qui se sont montrés. Et je rejoins l'avis que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que les phases de poule de groupe, c'est devenu des groupes de qualification.
Non mais Madine, personne n'a dit le contraire. Bien évidemment que l'équipe de France, même s'ils jouent la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, ils n'auront rien à envier à ces sélections-là et ils doivent jouer avec beaucoup d'ambition. Moi, alors je veux bien moi que les phases de poule ne veulent rien dire. Maintenant, on va quand même analyser ce qu'on a vu sur les trois premiers matchs. Et moi, au-delà même du management, et je voulais rajouter ça, c'est que moi, je trouve que Deschamps s'est trompé sur beaucoup de choix. C'est-à-dire que si on regarde les trois compositions d'équipe, quand la première, le duo Thuram-Mbappé, cette fameuse double animation là, où Thuram doit prendre les patins d'Mbappé, j'ai pas trouvé ça pertinent pour l'équipe. Sur le deuxième match, moi je répète, hein, mais je pense qu'il fait cette animation à quatre, qui a plutôt fonctionné défensivement et offensivement aussi. Les gens te diront qu'il s'est procuré des situations, mais pourquoi il fait ça? Parce que il est frileux dans son choix de mettre Barcola parce qu'il a peur. Mais je rappelle à Didier Deschamps que, alors il y en a qui diront peut-être que c'est pas de la même valeur, que ces joueurs-là n'ont pas la même valeur que Barcola, peut-être et sûrement, mais il a quand même lancé Pogba et Varane sur un match contre l'Espagne au Stade de France en qualif pour une Coupe du Monde ou pour un Euro, je n'ai plus le souvenir. Il a quand même lancé Mbappé sur une Coupe du Monde 2018. Si tu peux pas mettre Barcola contre les Pays-Bas troisième de ta poule ou même le faire rentrer sur les 20 dernières minutes, il y a quand même un problème. La question de Tchouaméni, je répète, moi pour moi c'est parce qu'il y aurait eu des soucis dans le management et qu'il le met parce que bon, Tchouaméni, champion d'Europe avec le Real Madrid, bon j'ai mis Kanté sur le premier match, il n'était pas à 100%, faut que je l'intègre. La même chose pour le troisième match. Il sort Griezmann, pourquoi? Parce que pour moi, je suis persuadé que son analyse, c'est que Griezmann n'est pas bon sur les deux matchs. Il faut que je fasse un électrochoc, comme il avait fait un petit peu à l'Euro 2016. Mais comme Kanté a été monstrueux au poste de numéro 8 sur les deux premiers matchs, il pense que Kanté, à la place de Griezmann, il pourra faire le boulot de Griezmann. Sauf qu'on se rend compte que, sur cette composition d'équipe-là, mais Kanté numéro 8, numéro 10, c'est plus le même boulot.
Walid,
et il se trompe encore une fois.
Mais
le gros problème.
Il a mis là, mais il peut pas penser ça. Personne
mais
peut penser
si,
ça.
Mais si,
Walid.
Moi, j'en suis persuadé.
Pas Didier Deschamps,
c'est qu'il
pas expérience qu'il a,
sur un troisième
même,
match contre la Pologne. Je mets Barcola. Donc, je vais mettre 3, 6, 8.
Qui peut penser
pour
ça?
Pour bloquer. Moi, je te dis, c'est mon analyse. Peut-être que je me trompe. Mais c'est mon analyse là-dessus. C'est qu'il se dit, bon, Kanté, il est tellement monstrueux, là, les gars. Griezmann, je vais le faire reposer. Sauf que le problème, c'est que si tu perds Griezmann, comme l'a dit tout à l'heure
Florent, si tu perds
Giroud, même si Giroud, je suis un peu plus nuancé, on en parlera après. Ça commence un petit peu à faire beaucoup sur tes cadres. Et surtout, ce n'est pas des choix payants. Quand Barcola, j'aurais bien aimé qu'il le prépare les 20 dernières minutes contre les Pays-Bas. Quand tu vois que, en fait, c'est à la carte. Il y a des joueurs qui jouent parce qu'ils sont meilleurs, mais il y a des joueurs qui ont un totem d'immunité. Quand tu vois que Dembélé, il fait deux fois 90 minutes et une fois 80 minutes,
c'est pas normal par rapport à son niveau de jeu. C'est pas normal par rapport à son niveau de jeu. Et même comment il termine le milieu de terrain? Le milieu de terrain, il termine avec Fofana, Kamavinga, Griezmann. Les 20 dernières minutes. Vous avez vu les 20 dernières minutes contre la Pologne? Mais ça a été ridicule au milieu de terrain. On a été transpercé de partout. Il y a un moment donné, on est plus proche d'un 2-1 polonais qu'un 2-1 français. Mais c'est de la faute à qui ça? C'est de la faute à Deschamps qui encore une fois a fait une lecture de match défaillante.
Oui, alors encore une fois, ça c'est un peu dur. Ça lui arrive pas si souvent.
Je te parle sur cette compo, sur cette compétition là.
Oui, non, tu dis encore une fois mais après c'est pas nouveau de voir Didier Deschamps tâtonner. Alors là, il le fait peut-être plus que d'habitude en phase de poule d'une compétition.
Contre les Pays-Bas, elle est défaillante la lecture de match.
Non mais
Walid, si on n'est pas premier, c'est parce que t'as pas voulu aller chercher cette victoire sur les 20 dernières minutes contre les Pays-Bas. Alors que sur la deuxième mi-temps, on est bien meilleur que.
Non, c'est qu'il l'a pas lu comme toi. C'est que lui, il a voulu assurer de ne pas perdre face aux Pays-Bas. C'est ça.
Bah c'est bien ça. Oui. Non, pour moi, elle est défaillante. Parce l'analyse. T'as pas de première place. Et t'as un tableau Belgique, Espagne ou Allemagne. Et on se rend. Et si on se donne rendez-vous dans 15 jours et qu'on perd contre ces équipes-là, et ben moi, ce match contre les Pays-Bas et sa lecture de match, elle me restera là.
Le vrai problème de Deschamps, c'est que il a du mal à faire jouer son équipe et à l'organiser offensivement. Donc en fait, Deschamps, il a fait un crime de lèse-majesté, ce qui lui arrive rarement avec son respect des statuts. C'est l'histoire Griezmann, qui à mon avis est terrible. En fait, le seul joueur offensif de cette équipe qui peut être le playmaker, qui peut faire jouer les Bleus, c'est Griezmann. D'ailleurs, on peut regretter qu'il n'y ait aucune solution. À mon avis, il n'y a qu'une solution. Parce que quand on dit Mbappé, oui, non, mais Mbappé, il démarre quand il a le ballon dans les pieds. Mbappé, quand il est bon, il va très vite. Il élimine quand il a le ballon. Il fait pas d'appel. Il veut pas faire pivot devant. C'est pas Mbappé. On joue pour lui. Mais c'est pas Mbappé qui fait le jeu. En revanche, c'est Griezmann. Et ça, en équipe de France, on a eu des bons matchs avec un Griezmann qui a été touché. Et comme Deschamps, il est dans une poule dans sa tête, lui, alors on peut pas lui reprocher ça, il sous-estime pas ses adversaires, Deschamps. Et lui, il se dit dès le départ, l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, ça va être compliqué. Sauf que tu le vois dans sa compo, quoi. Déjà dans sa composition de groupe au sens large, et lui, il commence par bétonner pour être sûr de pas perdre.
Et en fait, en cours de match,
je suis d'accord, mais sauf que derrière,
tu te rends compte que
Griezmann dans la composition, même dans les premières, il est pas touché, il touche pas de ballon. Oui. Et donc à partir du moment où Deschamps est comme ça, et ben oui, effectivement, il a fait un truc de dingue. Il a fait d'un mec dont il a eu l'idée plutôt bonne d'aller le rechercher en Arabie Saoudite, à savoir N'Golo Kanté, en se disant j'espère que ça va le faire à son poste.
Très belle idée.
Ouais, très belle idée. À son poste, on savait pas. Lui devait aussi avoir un doute sur le physique et tout. Ça marche. Et ben il en a fait un meneur de jeu de l'équipe de France. Kanté, c'était le meneur de jeu de l'équipe de France.
Mais je pense, Flo, parce que les deux premiers matchs, comme il se projetait très haut et qu'il était pertinent, il s'est dit moi, sur le troisième, je peux.
Moi, je pense surtout que son problème, c'est que n'ayant pas d'idée dans l'animation offensive, en dehors de celle de se dire quand on touche Griezmann, qui touche Mbappé, ou à l'époque, qui touche Giroud, qui touche Mbappé, ça marche. Comme il n'a pas d'autres idées que celle-là. Giroud, il estimait, peut-être à juste titre, parce que Giroud, il a eu un souci d'ailleurs à la fin du premier match, que physiquement, il était pas au top sur le premier match. Que Mbappé, on le sait, il est pas au top sur cette compétition. Que Dembélé a un peu raté tout ce qu'il a voulu, effectivement, et il avait plus de solution. Et sa dernière compo est un peu une compo panique. Mais qui aurait pu marcher, parce que en ayant l'attaque que moi je prenais, c'est-à-dire l'attaque 100% Paris, il a failli s'en sortir. Hein.
Oui, mais avec les créations en bas. Mais
justement, le terrain, on en parle dans un instant, ce France-Belgique, avec l'avis tranché de Flo concernant Olivier Giroud. Je remercie Majid d'avoir été là avec nous. Merci Majid.
Merci Majid.
À très bientôt sur RMC au 32-16, 23h31. Petite pause et on est de retour avec Flo Gautreau, Olivier Deschamps et vous tous au 32-16 si vous voulez venir débattre après l'avis de Flo dans un instant.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC l'after, une fois de plus en direct jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, avec Flo Gautreau, le 32-16. Vous pouvez nous appeler, venir débattre en direct. Max est là au standard, nous voir et commenter surtout votre soirée foot sur YouTube, la chaîne de l'after. Dans quelques minutes, l'actu olympique, OM et OL du jour avec.
J'étais parti sur les JO.
Allez, JO.
Sur l'ouverture du réfectoire, tout ça. Là.
Ah oui.
C'est un sujet que je suis très content de ne plus faire.
Ouais. Moi aussi.
Vas-y, agis-moi. Non, mais genre, t'as le réfectoire des athlètes. On va faire un sujet sur le réfectoire des athlètes.
J-30, le réfectoire est-il prêt? Tu sais, et la piscine va-t-elle être prête pour les épreuves?
Surtout, c'est toujours, ça va pas être prêt.
Ouais. Mais là, en ce moment, c'est l'eau de la Seine. Tu sais, t'as les trucs. Ah, on a fait le test. Non, elle est toujours pas encore à la norme. C'est ça le suspense.
J'ai fait tous les jeux d'été et d'hiver pendant un moment. Et j'ai fait, non, là, je les ferai pas. Mais sur les avants. Et les avants, c'est horrible. Ça va pas marcher, ça va pas le faire, ça va être nul. La Coupe du Monde 98, il y a des tas de soucis. J'ai des tas de sujets pour dire que ça allait être la merde. Et puis bon, à la fin, c'est super.
Parce que vous, ouais, mais parce que vous, les journalistes, voilà, vous êtes là tout le temps.
Nous, c'est des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, j'ai fait un truc sur la Coupe du Monde 98 avec Daniel Bilalian, que je salue, qui était à France 2. Et puis il me dit, il faut vraiment faire un truc. Pareil, il y a plein de problèmes. C'est sur l'orga de la Coupe du Monde avant.
Ouais.
Donc, je vais voir Platoche et tout, à interview co-président du comité d'organisation, machin. Je titille dans tous les sens. Et il dit, mais... Puis après, il dit, tu vas m'emmerder toute la journée. On fait une tournée des stades à Bordeaux. Il était là pour vérifier. Je dis, il paraît que les spectateurs du premier rang, ils vont pas voir parce qu'en fait, il y a la nouvelle barrière et tout. Et que moi, regardez, il me dit,
le chieur, c'est incroyable.
Et à la fin, tout était super. On a gagné la Coupe du Monde et tout le monde a vu les matchs.
Magnifique. Voilà. Puisqu'on était dans le.
Bon, c'est comme ça.
On était dans le groupe A et on pouvait affronter le Brésil qu'en finale.
Quand j'étais à Sydney pour les Jeux de 2000, la polémique, c'était pas l'eau de la Seine, c'était de savoir si les triathlètes allaient pas se faire bouffer par les requins dans la baie de Sydney.
Ah.
Mais là, il y avait un vrai sujet.
C'est vraiment
juste. Oui. C'est dans de la mer.
Ou sous la Seine. Les requins sous la Seine en ce moment sur Netflix. Ouais. Film qui divise apparemment.
Ouais, je pense que c'est une bonne merde.
Et ouais, je vais pas le regarder. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les bonnes merdes. 23h36, l'actu olympique sera donc les Olympiques lyonnais et marseillais, puisqu'il s'en est passé beaucoup aujourd'hui entre passage devant la DNCG validé et signature, en tout cas joueur en approche pour ces deux clubs. Mais d'abord, on referme l'Euro, l'équipe de France, avant ce huitième de finale contre la Belgique, lundi à 18h sur RMC, avec l'avis de Flo Gautreau.
Courtepaille, d'ailleurs, il y a un gros dossier. Parce que figure-toi qu'il a failli disparaître. Moi, j'adore. Ouais. J'ai l'appli Courtepaille. Hein. C'est au-dessus de tout le reste sur autoroute. La petite salade d'accueil, les petites grillades. T'as les grillades, tu les vois.
Excuse-moi, je suis déjà le Courtepaille, je connais quand même.
Elle marche.
J'adore, c'est vrai, l'argument, il y a les grillades, tu les vois.
tu les vois.
C'est vrai, il est excellent et je
partage. En fait, oui, parce que tu les vois cuire.
Mmh, oui, non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Olivier Giroud.
Écoute, je reviens avec mon Giroud pour la 10e année consécutive. Je croyais pas revenir avec mon Giroud pour cette fois. Effectivement, j'avais demandé une attaque à un moment donné à Deschamps, 100% parisienne, Barcola, Dembélé, pour avoir un peu d'imprévisibilité, un peu de panache, voilà. Bon, j'ai pas été 100% convaincu, mais ça m'a quand même fait plaisir de voir mon petit Bambi aligné sur le côté gauche de l'attaque de l'équipe de France. Et pourquoi je dis qu'il faut mettre Giroud? Parce que Mbappé, moi ça me dérange pas qu'il soit en neuf, parce que, et je comprends pourquoi on le met en neuf pour les raisons qu'on connaît, il défend pas et donc tu déséquilibres toute l'équipe en faisant ça. Mais c'est vrai qu'il a pas été bon à ce poste-là. C'est vrai que là aussi à ce poste-là, je le disais tout à l'heure, il ne fait pas suffisamment d'appels, il attend d'avoir le ballon dans les pieds pour démarrer, il veut pas jouer, il peut pas jouer en pivot, ça peut pas être un neuf pivot, c'est pas son profil.
J'ai
c'est
revu
normal.
Deux trois actions là de Barcola où il doit faire l'appel plein axe. Et lui proposer où il est milieu de terrain.
Oui, tout à fait. Il revient entre les lignes. Donc, bref, Mbappé 9, ok, moi je préfère que ce soit 9 pour l'équilibre, mais c'est pas génial. Thuram 9, j'avais oublié évidemment ça, le début, pareil, j'ai prôné Thuram 9 aussi parce que je voyais que Giroud était sur le déclin et qu'il allait falloir le remplacer. Je pensais que ça pouvait être le 9 des Bleus. Il n'arrive pas à s'imposer en tant que 9 des Bleus. À partir du moment où on a les informations selon lesquelles Giroud, qui a souffert, je le disais tout à l'heure aussi, d'un adducteur à la fin du premier match, est à 100%. Et il y a les infos de Valentin Jamin qui est sur place, qui nous dit qu'il a mis 2 buts à l'entraînement cet après-midi, qu'il a à bloc, qu'il a à fond. Je dis mettons Giroud pour plusieurs raisons, pas seulement parce que j'aime beaucoup Olivier Giroud, mais parce que sur les quelques actions qu'on a pu voir avec lui et sur ce profil particulier, il a quand même un truc et qui est un peu l'ADN de cette équipe de France, puisqu'on cherchait à savoir comment offensivement on allait pouvoir connecter tous ces gens-là, Griezmann, Giroud, Mbappé. On revient avec une vieille recette, mais à mon avis c'est une recette qui peut fonctionner. Tu remets Mbappé sur le côté gauche. Il faudra effectivement quelqu'un derrière lui, évidemment, pour compenser. Mais ça, on l'a déjà fait. Tu mets Giroud en neuf s'il est en forme. Évidemment, il ne fera pas les 90 minutes. Ça, c'est un enjeu qu'il faut prendre en compte. Et en espérant qu'avec ce système-là, tu retrouves Griezmann, tu le connectes au reste de l'équipe et ça peut le faire. Donc, pour cette raison-là et pour l'adversaire, par rapport à cet adversaire. Je pense que Giroud peut faire du mal, peut user et peut rentrer dans la tête de cette défense belge qui, même si elle a encaissé, je crois qu'un but finalement dans toute la compétition, je l'estime pas super costaud et je suis pas très impressionné comme tout le monde par l'équipe de Belgique. Donc, je dis pour le début du match, puisque maintenant il faut changer en cours de jeu, même si Deschamps n'est pas un adepte aussi des changements précoces, je pense qu'effectivement, il serait bon de commencer ce match avec Giroud en 9.
32-16, si vous voulez réagir à l'avis de Flo, Walid.
Je comprends l'avis de Flo.
Giroud titulaire.
On ressort le bon vieux pot de confiture.
Ah, exactement.
Parce que.
La bonne méthode contre une équipe pas très forte.
Oui, oui, bon. Non, ça s'entend. Après, moi, il y a un truc. Bon, déjà, Flo, qui nous dit qu'il a mis 2 buts à l'entraînement. J'espère que c'est pas son meilleur argument parce que, en tant que numéro 9, Olivier Giroud met 2 buts à l'entraînement. Bah, des petites oppositions
alors,
dans cette
séance. Tu sais que l'autre jour, à la fin d'une séance, Mbappé n'a pas cadré une dans l'entraînement.
Et échauffement, on est trop
Non, ouais, il tire de fin de match, de fin d'entraînement.
D'accord. Bon, ok.
Non, il n'y avait pas que ça. De ce que disaient les gars qui suivent les Bleus pour RMC, c'était aussi l'implication, le côté. Un bloc, peut-être qui sait, qui sent un truc.
Oui,
je sais pas.
Peut-être. Non, mais moi, je suis pas contre l'idée. Bien évidemment que le 4-2-3-1, 4-3-3 qui avait fonctionné à la Coupe du Monde 2022, notamment contre la Pologne. Mmh. Moi, j'aurais aimé le revoir, mais bon, Deschamps nous explique quand même depuis 3 semaines, ou en tout cas, les insiders nous expliquent que pour lui, dans sa tête, Giroud n'est plus prêt physiquement, que Griezmann ne peut plus jouer dans ce rôle-là parce que lui non plus n'est pas prêt physiquement, et que Mbappé ne peut pas jouer aussi dans ce rôle à gauche parce qu'il n'est pas prêt physiquement. Donc, c'est un peu les signaux qu'on nous envoie. Là où j'ai beaucoup critiqué Deschamps sur le dernier quart d'heure, mais je vais quand même lui octroyer un point positif, c'est que sur les entrées de Giroud, il a pas tort. Parce que pour moi, pour les entrées de Giroud contre l'Autriche et contre l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne.
L'Autriche, il y a très peu de choses.
Il a une grosse occasion sur la passe de Colomani. Pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Et je sens qu'il a pas le jump.
Tu veux dire qu'il a pas tort de quoi? De pas le mettre titulaire?
Non, en fait,
l'impression que Giroud me donne sur ses entrées, c'est véritablement ce que en fait pense Didier Deschamps, c'est que physiquement je le trouve un peu emprunté par rapport à avant, c'est-à-dire le petit jump là pour être pour finir, parce qu'il a cette qualité là sur une touche pour
juste après je te laisse finir. Pour ça, effectivement, et on était avec les proches de Giroud, c'est à Grenoble. Mmh. Il est vrai que, on ne l'avait dit d'ailleurs, il pensait même pas forcément qu'il allait sortir, tu vois, du banc ce soir-là, parce qu'il avait une gêne qu'il avait eue contre l'Autriche.
Les adducteurs.
Et lié aussi à la prépa, c'est-à-dire qu'ils ont refait une petite prépa pour spécifique Euro assez courte, qui l'aurait un peu, qui confirme qu'il est quand même effectivement de toute façon un peu fatigué. Hein,
oui.
Mais il y avait cette question ponctuelle.
Et qui sont ces prépas-là dont tu parles, Flo, des prépas qui doivent permettre aux Bleus d'arriver à leur pic de forme là à partir des huitièmes de finale. Ouais.
Sur le match des Pays-Bas, il a été introuvable, mais bon, c'est pas de sa faute parce que je trouvais l'animation offensive très très frileuse. J'en ai parlé tout à l'heure. Et sur le troisième match, il rentre quand même 30 minutes. On l'a pas trouvé. Où il y a une occasion qui est un peu similaire à celle de l'Autriche avec un centre, je sais pas si c'est Dembélé ou un autre joueur. Et là aussi, il est un peu en retard où il bute sur le défenseur. Même dans son jeu de haut but, j'ai trouvé un peu en difficulté dans les duels. Donc oui, moi je dis pourquoi pas ce que dit Flo. Mais pour l'instant, parce qu'il a quand même eu une demi-heure, 20 minutes, je trouve que il manque quelque chose. Et moi, je vais peut-être en faire crier plus d'un.
Waouh.
Mais le match de Marcus Thuram contre les Pays-Bas, autant contre l'Autriche, j'avais été très déçu.
T'as aimé.
Non, c'est pas que j'ai aimé, mais j'ai trouvé utile sur certaines situations, notamment les deux déviations qu'il fait en première mi-temps et en deuxième, qui sont les deux plus grosses occasions de la France contre les Pays-Bas. Je te dis pas que Thuram doit jouer d'office, mais il y a des matchs où Giroud, on a souvent dit match dans l'ombre, qui permet aux autres d'être meilleurs, où il va jouer en remise. Je trouve que Thuram, on a été très très dur sur les analyses après les Pays-Bas.
Parce que Thuram aurait dû prendre la place, il devrait pas y avoir de débat malheureusement.
Mais entre-temps, il a remis Mbappé en neuf et il a fait jouer Giroud sur la deuxième partie de rencontre. Moi, je reste persuadé qu'il mettra la même compo que face aux Pays-Bas avec Mbappé à la place de Thuram. Et il y jouera comme ça et il fera comme ça toute la deuxième partie de compétition.
Christophe est là, supporter des Bleus au 32-16. Salut Christophe, merci d'avoir
participé. Salut Christophe.
Est-ce que tu partages la vision de Flo, l'avis de Flo? Giroud doit être titulaire.
Giroud titulaire, ouais. Mais après, il y a un truc qui me gêne un petit peu, moi. On dit que Mbappé n'est pas en forme, même sur le côté gauche, il est physiquement tout ça. Mais dans ce cas-là, alors, il a qu'à aller au bout du truc. il met Mbappé sur le banc, il met le petit Barcola qui a fait un bon match. Et voilà, comme
ce qu'il les gars, tu peux pas mettre Mbappé sur le banc, les gars.
Et tu non, fais non, quoi non. Il a rien fait.
Je pense pour le coup que là où je ferai un reproche à Deschamps, c'est sur les changements trop tardifs. Et effectivement, sans doute, là aussi, une hésitation à sortir peut-être plutôt les joueurs. Mais non, tu peux partir avec Mbappé sur le terrain. C'est pas
oui,
un souci.
Pas avant-centre.
Ah non, c'est un débat.
Tu mets côté gauche. Je suis désolé. Avant-centre, il faut rien, Mbappé. C'est un super joueur, mais voilà, il a rien montré. Il y a un truc qui me gêne aussi. Moi, je vais parler des absents. Il y a un absent qui s'appelle Alexandre Lacazette, qui a fait une saison de folie dans un club, pourtant, qui était pas au top. Et il a fait une super saison. Il a marqué 19 buts, je crois, en championnat. 3 buts en Coupe de France. Ma foi, et ce gars-là, tu me prends pas, il est en pleine forme, mais tu te prends pas.
C'est dans la logique de construction.
Il faut qu'on se réveille en 2024, même si demain il pouvait avoir, je sais pas, Pierre Ivamel à la place de Lacazette, il prendrait Pierre Ivamel. On a compris avec Lacazette, hein, il a émis un doublé contre l'Allemagne, il était dans la forme de sa vie, il a préféré Gignac, qui était au Mexique. Faut arrêter de penser que Lacazette, dans l'esprit de Deschamps, est une solution fiable.
Non, c'est la mentalité, a priori.
Ça reste à prouver.
Je te dis, il l'aime pas. La mentalité, c'est dans l'histoire du groupe, toujours.
C'est la mentalité qui joue,
quand on parle de management depuis le début du tournoi, je sais pas si la mentalité.
Non, mais en tout cas, c'est le management de Deschamps. Évidemment, c'est pas sur des critères sportifs.
Moi, j'ai mis l'idée pour lui pendant 3 ans, j'ai abandonné.
Moi, j'ai une idée, les gars.
Tu vois, Flo, il abandonne pas pour Giroud. Ouais, Christophe.
Moi, j'ai une autre idée, moi. Éric Dimeco, préparateur mental de l'équipe de France.
J'ai pas entendu.
Éric Dimeco, préparateur mental de l'équipe de France.
Très bonne idée.
Mais tu peux avoir d'autres soucis après.
Tu peux avoir des cartons rouges.
Non, mais Éric, c'était un phénomène. Moi, c'est un joueur que j'ai admiré, franchement. Une mentalité hors norme, vraiment. Sans rire, mis à part le fait
qu'il était dur. Je vais te dire un truc, c'est que sur la mentalité, je parle notamment des joueurs défensifs, du bloc défensif, c'est pour ça qu'il faut voir comment il arrive à organiser offensivement son équipe. Maignan. On en parle très peu, mais Maignan il rentre dans son équipe pour une grosse compète pour la première fois. Maignan, tu le vois parler à ses défenseurs, tu vois le mec, c'est le boss absolu.
Ouais, leader.
Donc t'as un leader comme ça, Saliba qui s'est imposé parce qu'il s'est dit bon maintenant faut que j'aille parce que j'ai fait une saison énorme. Mais à chaque fois que je suis en bleu, je suis un peu en moins bien. Il fait un début énorme.
Koundé est pas mal.
Non mais même le milieu de terrain avec les Kanté, tu savais pas où il en était. Donc en fait, tu as aussi des certitudes avec des mecs qui ont de l'expérience. Je pense à Kanté, du caractère. Donc, quand t'as Théo Hernandez sur le terrain, là, t'as pas des mecs de caractère. Donc, il a tout ça. Mais à partir du moment où il va pas récupérer son animation, enfin, ses joueurs offensifs, c'est pour ça que, j'avoue, hein, c'est quelque part un manque d'idées, hein, même de ma part. Je repars comme disait Walid, sur une vieille formule. Parce que je pense que comme il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire pour innover, et comme il a pas mis Barcola contre les Pays-Bas, de manière totalement incompréhensible, je me dis, refais ce que tu sais faire de mieux. Oui. Alors effectivement, avec un bémol près, c'est que je ne sais pas si Giroud sera suffisamment en forme pour faire 60 minutes de très haut niveau.
On verra lundi. Lundi, 18h pour le coup d'envoi, ce sera une journée exceptionnelle sur RMC. Je remercie Christophe d'avoir été avec nous au 32-16.
Merci
Christophe, tu es un phénomène.
Et Thibaut, attention aux Belges, parce que je commence à entendre partout, on a gagné, c'est des bidons.
T'as pas entendu ça?
Ah si, j'ai entendu ça. Je caricature un peu.
Oui,
mais presque.
Voilà, c'est ça.
Mais presque. Les Belges, c'est vrai qu'ils ont fait une phase de poule décevante, mais attention.
Merci Christophe. 23h48, on est en direct jusqu'à minuit. On fait une petite pause et dans un instant, l'actu de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. Grosse journée pour ces deux clubs, je vous explique tout dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Encore 10 minutes à passer ensemble. Walid Acherchour, Flo Gautreau sont là. Merci à vous également d'être fidèles à l'after comme tous les soirs. D'ailleurs, demain, after court mais efficace, que demain soir, il y a la finale du championnat de France de rugby, finale du top 14 à vivre sur RMC. Alors, toi, non, moi, un petit peu, parce que je présente cette soirée, mais dans la foulée, sera l'after foot et vous serez là, les gars.
C'est quoi, c'est Toulouse UBB?
Ouais.
Exactement.
On va faire une petite mettre Toulouse UBB, parce qu'on fait une heure d'un débrief de Toulouse UBB.
C'est qui le favori, à ton avis, là, à 24 heures,
Pour moi, c'est Toulouse.
Ouais, malgré la présence de Jalibert, coup d'envoi.
Attention à...
Ah bon, il est là?
Ouais, il est là.
Attention finalement. À Laurent Jalibert, en danseuse, ça peut être.
bien sûr.
Moi, je pense que la tortue...
Tu l'as vu courir? Hein courir? Tu l'as vu courir,
bien sûr,
Laurent Jalibert?
Bien sûr, j'ai vu courir. Moi aussi, j'étais un grand fan du Tour de France.
Moi aussi.
J'allais au Bled, j'allais en Algérie deux mois de...
Il kiffe là-bas?
De juillet à août. Et en fait, en juillet, j'étais chez ma grand-mère et mon père, il... Bon, je raconte ma vie, hein. Mais mon père nous rejoignait en août. Et donc, en fait, on n'avait qu'une télé. Et donc, on avait les 6 chaînes. Et en fait, je me tapais le Tour de France pendant 3 semaines et je kiffais mais ça.
Tu regardais tout seul ou là-bas, c'est un
non,
truc
non,
les Algériens
non,
regardent,
non, tout seul, tout ah, seul.
C'est,
tout
c'est
seul,
quoi les années, ça, on peut
c'est les années Armstrong.
Les années Gallery, Ulrich,
Iban Mayo.
T'aurais pu me voir.
Jusqu'à.
T'étais sur la moto?
Je crois que c'est la période jusqu'à Rasmussen.
Tu sais que moi j'ai fait
Rasmussen avec Rabobank.
Ah ouais.
J'ai fait la montée.
Ils montent avec Contador à un moment donné. Ouais. Les mecs, ils ont la poignée.
Ouais. J'ai fait la montée Sestrière 99. J'étais à où j'ai vu Armstrong. J'ai fait un sujet dans le 20h en disant stupéfiant, hallucinant, comment un coureur qui n'a jamais été un pur grimpeur a-t-il pu infliger une telle leçon aux spécialistes de la discipline.
Et ben voilà, 10 ans, 12 ans avant tout le monde.
Non, parce que tu sais pourquoi je disais ça? Parce que c'était 99 et que c'était un an après l'affaire Festina et qu'on avait vendu le tour comme le tour du renouveau.
Ouais. Ah ouais.
Bien vu. Bien vu, bingo. Allez, 23h52, retour au foot. Donc demain, l'after sera là quand même après le rugby. Pour vous dire que ce 27 juin a été une journée efficace, j'ai envie de dire, pour l'OL, puisque premièrement, la DNCG ce matin n'a pris aucune mesure contre Lyon, qui va avoir les mains libres, comme on dit cet été. Je dis ça parce que l'été dernier, souvenez-vous, l'OL avait subi un encadrement de la masse salariale. Et dans la foulée, on a appris que Moussa Niakate allait s'engager, défenseur de Nottingham Forest de 28 ans. Il doit passer sa visite médicale.
Sénégalais, titulaire
demain.
Titulaire avec le Sénégal, à côté de Koulibaly.
Et selon l'équipe et Fabrizio Romano, ça va coûter 31 millions d'euros. Montant record de transfert pour l'Olympique Lyonnais, serait le plus cher.
Ouais.
Tu connais bien ce...
Je connais,
31 millions, ça semble très cher pour ce joueur.
Je le connais un peu plus avec le Sénégal, où il a fait des matchs assez solides. Les échos que j'ai, c'est que ça reste un bon défenseur, qui a été remplaçant sur la première partie de saison et qui, derrière, s'est imposé... dans cette équipe de Nottingham Forest. Maintenant, c'est le prix, moi, qui me...
Ouais. Je rappelle, comme le dit Gilbert, qu'on est, on n'a toujours pas le foot français toujours en faillite virtuelle, mais à Lyon, ça la planche.
30 millions d'euros après les 27,5 qu'ils doivent lever sur Mangala, parce qu'ils ont que 10 millions de prépayants, donc il reste 17 millions à lever. Donc ça ferait 60 millions. Bon, enfin, ça reste à confirmer, hein, les 30 millions, on verra. Hein, l'OL est coté en bourse, donc on va vite le savoir. Mais 60 millions pour deux joueurs de Nottingham Forest.
Il n'y a pas un doute sur la somme.
Il y a un doute, on va voir.
C'est pas encore officiel, donc le doute, on peut toujours l'avoir.
20 millions, ce serait déjà beaucoup plus raisonnable.
Non, mais il me semble, maintenant, parce que là, dans les chiffres qui ont circulé aujourd'hui, j'ai regardé, il y avait deux.
En tout cas, l'équipe est bien
renseignée.
C'est 30 millions. Et sur Transfermarkt, il est évalué à 16 millions d'euros. Après, ça reste Transfermarkt, mais apparemment, il avait aussi des sollicitations en Italie et en Angleterre. Mais payer 30 millions d'euros, quand même, je trouve ça excessif.
Il aurait refusé Crystal Palace, le LOSC. En dehors du prix.
Le LOSC à 30 millions, je suis pas sûr qu'il.
Ouais. Ouais. Mais en dehors du prix, c'est effectivement une bonne recrue. C'est une recrue précoce, en plus. La nouvelle, effectivement, que tu donnes sur la DNCG, tout ça, c'est quand même des nouvelles. C'est un autre Lyon, quand même, que par rapport à celui qu'on avait avant qu'on sache si Textor allait vraiment faire l'effort.
Après, sur la DNCG, apparemment, il a dit aussi qu'il devait vendre pour 70, entre 70 et 100 millions cet été. Je sais pas où est-ce qu'il va les trouver, les 70 millions de ventes, hein, parce que Cherki, on l'évalue entre 15 et 25. Après, derrière, il va falloir qu'ils vendent quand même pas mal de joueurs. Autant l'année dernière avec Loukeba et Barcola, ils pouvaient les avoir et s'en rapprocher. Là, j'ai un peu plus de doutes.
L'OM également proche d'avoir sa première recrue, enfin sur le terrain bien sûr, puisque Ismaël Koné devrait s'engager dans les prochaines heures, contrat de 5 ans. Roberto De Zerbi voulait absolument le milieu axial canadien qui joue à Watford, montant du transfert 12 millions d'euros. Après donc Ismaël Assar qui venait de Watford également,
qui était à Sheffield l'année dernière en Championship. Moi, j'ai des échos très positifs sur Ismaël Koné. On l'avait vu contre le Canada, notamment en phase éliminatoire, les amicaux, avant l'Euro. Et il nous avait tapé dans l'œil. Ça avait été le meilleur milieu de terrain avec Kanté sur le match. 12 millions d'euros. On me dit que c'est un prix qui est pas cher du tout par rapport à ce qu'il vaut. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Mais j'ai l'impression quand même, on en parlera sur les prochains jours, Thibaut, mais que Marseille est en train de rajeunir son effectif. Hein. parce qu'entre Lilian Brassier, 23 ans, Koné, je crois qu'ils étaient aussi sur le petit Belloumi.
Tu veux dire que c'est une stratégie différente,
les
gros salaires chers.
Moi je pense qu'ils veulent mettre des joueurs jeunes à fort potentiel dans les mains de Roberto De Zerbi pour créer de la valeur marchande et de la plus-value. Et je pense que ce serait pas une mauvaise idée sur une saison où ils ont pas de Coupe d'Europe. Sur le gardien aussi, j'ai entendu Paul Lopez pourrait partir. Je serais pas surpris, je crois que c'est Santi FM qui l'a sorti, que Ilan Meslier pourrait arriver qu'à 24 ans. Je pense qu'ils sont dans cette range là de politique sportive sur ce mercato.
Et d'ailleurs l'OM qui s'intéresserait aussi, même si là on est au début des négociations, de près à Mason Greenwood, l'ailier de 22 ans qui est aussi dans le viseur de plusieurs grands clubs italiens.
Très bonne histoire à lire sur Mason Greenwood en Espagne, son arrivée, c'est une histoire incroyable.
Ouais, il a été prêté à Retafe cette saison, mais Manchester United, à qui il appartient, veut s'en débarrasser.
Pour ceux qui savent pas, c'est un très bon, faudrait qu'on en parle un jour avec Fred Hermel, une équipe qui assume, entre guillemets, je caricature, vraiment de jouer moche, et lui est arrivé là-dedans avec son histoire en Angleterre, tu sais, et s'est imposé, on va dire, là-bas, mais c'est intéressant. Ouais,
c'est vrai qu'il a une histoire avec... accompagne
violence conjugale.
Ouais. Ça me gêne un peu plus.
Et puis, je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour un drame aujourd'hui avec l'annonce de la mort de Landry Nguemo, ancien international camerounais qui est décédé aujourd'hui dans un accident de la route, 38 ans. Ses anciens clubs français, notamment Saint-Etienne et Bordeaux, ont partagé leur tristesse. Nguemo avait fini sa carrière à Nancy. Il y était devenu entraîneur des jeunes et ce soir... grosse pensée, grosse force ce soir à toute la famille de Landry Nguemo.
Tragique.
Voilà, merci en tout cas les gars, Walid, merci. Flo, ça fait un plaisir. L'after de retour demain, je remercie Tim à la Real.
Après c'est UBB Toulouse.
Exactement, donc un peu plus tard parce que le rugby ça commence jamais à l'heure et ça finit toujours très tard. Merci également à Jérôme Thomas, à Max du Standard et merci à vous d'être là fidèles à l'after comme d'habitude. À demain, ciao.
RMC, l'after foot.